BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
Il est 18h dans quelques secondes. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a deux gros titres. D'abord, ce grand débat dans quelques heures à Atlanta aux États-Unis, le premier de la campagne présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden. Débat au cours duquel apparemment on va plus se soucier de leur état de santé que du fond des programmes. On va retrouver Antoine Hollard qui est sur place, bien sûr, dans un instant pour BFM Business. Et puis là en France, les patrons, les petits patrons qui, ça se confirme, sont très inquiets avant les législatives. Les patrons de TPME, PME le disent clairement, leur priorité du moment, ça n'est plus telle ou telle baisse de taxes, l'ordre public, la stabilité politique. Ça, ça en dit long quand même sur leur état d'esprit du moment. Le secrétaire général de la CPME qui a publié cette étude sera avec nous dans une grosse demi-heure pour en parler sur BFM Business. De tout ça, bien sûr, on parle avec nos experts qui arrivent dès 18h30. Deux invités auparavant, 18h10, au micro d'Edwige Chevrillon. Le patron de Figeac Aéro, Jean-Claude Maillard, qui publie ses résultats annuels, et l'économiste Anne-Laure Kichel. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc ça sera l'événement la nuit prochaine aux États-Unis, le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump, un peu plus de 4 mois l'élection présidentielle américaine. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Atlanta, là où va se dérouler ce débat dans quelques heures, débat qui, on peut le dire, sent déjà un peu la poudre, Antoine.
Oui, absolument, parce que les deux hommes se détestent et ne s'en cachent pas. On s'attend donc à des échanges extrêmement musclés ce soir, avec d'un côté Donald Trump qui va attaquer Joe Biden sur son âge, 81 ans, en disant qu'il n'est pas apte à diriger le pays et encore moins à rempiler pour un nouveau mandat. La campagne de Trump d'ailleurs a déjà donné le ton ce matin en diffusant deux clips qui se moquent de Sleepy Joe et qui mettent en cause ses capacités mentales et physiques. Trump lui-même a déjà commencé les attaques en disant que Biden ce soir aurait besoin d'une piqûre de dopage dans les fesses pour être en forme. Et puis en face, Joe Biden va attaquer Trump en disant que c'est un apprenti dictateur, un danger pour la démocratie. Donc le ton est donné à l'image de cette campagne finalement qui est une campagne très négative. C'est vrai qu'on mobilise pour, contre Joe Biden ou contre Donald Trump, mais pas pour un projet. Alors pour éviter que ce face-à-face tourne au pugilat, des règles très strictes ont été imposées et il n'y aura pas de public pour éviter les débordements et puis interdiction de se couper la parole. Les micros des candidats seront fermés quand ça n'est pas à leur tour de parler.
Il faudra bien ça effectivement pour maintenir un petit peu de calme. Merci beaucoup Antoine Hollard donc à Washington. Débat que vous pourrez suivre à 2h15 notamment chez nos confrères de BFM TV avec un débrief bien sûr dans la foulée. On est à un peu plus de 4 mois et demi de cette élection présidentielle américaine. En France, les législatives 3 jours avant le premier tour, la CPME sort du bois. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume.
Avec cette étude qui nous dit quoi ? Que pour un patron sur trois, la priorité désormais c'est quoi ? C'est l'ordre public, c'est la stabilité politique. On est très très loin de ce qu'était leur priorité avant l'annonce de la dissolution, Thomas.
Oui, c'est très frappant, Guillaume, parce que depuis des mois, voire même des années, quand vous prenez toutes les enquêtes de conjoncture réalisées auprès des chefs d'entreprise, les sujets qui revenaient inlassablement en tête de liste, c'était les difficultés de recrutement et les difficultés de financement. Mais dans cette enquête que la CPME a publiée ce matin et réalisée après l'annonce de la dissolution, les préoccupations ont changé de façon spectaculaire. La stabilité politique est devenue une priorité pour 35% des chefs d'entreprise et le maintien de la paix civile, ce sont le mot que les patrons emploient eux-mêmes avant même qu'Emmanuel Macron parle de menace de guerre civile, le maintien de la paix civile est le sujet numéro 1 de 29% des sondés. Donc ces chiffres en disent long sur l'inquiétude des patrons, inquiétude d'un blocage de la vie politique, inquiétude de débordement qui toucherait leur entreprise. La baisse de l'activité économique est d'ailleurs la préoccupation numéro 1 de quasiment la moitié des petits patrons. Au-delà de leur activité, ces chefs d'entreprise se montrent aussi inquiets pour l'état du pays et de ses finances. 78% d'entre eux considère qu'une hausse excessive des dépenses conduirait la France à la faillite et à une mise sous tutelle du FMI. Et enfin, les petits patrons, on peut le dire, ont choisi leur camp. Ils jugent que le programme économique du nouveau Front populaire est le plus inquiétant, le plus menaçant. 58% d'entre eux reporteraient leur projet d'investissement ou de recrutement en cas de victoire de la gauche, contre 36% pour le Rassemblement national et 12% pour la majorité présidentielle.
Étude réalisée entre le 20 et le 24 juin, donc c'est vraiment la semaine dernière, effectivement. Ouais. C'est très intéressant. Voilà pour l'état d'esprit des patrons, on en reparlera bien sûr, notamment avec Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME, qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 18h35 sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci. Thomas. Et puis alors, c'était en France toujours, c'était attendu, c'est fait en plein milieu de cette campagne. Ça y est, le décret portant sur la réforme de l'assurance chômage est paru aujourd'hui au Journal officiel. Les syndicats dénoncent un déni de démocratie. Mais même beaucoup de petits patrons, d'après la CPME, n'y sont pas favorables non plus, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure avec le secrétaire général de l'organisation patronale. 18h04, dans l'actualité des entreprises. Et bien, en pleine campagne, justement, c'est une opération qui n'est pas passée inaperçue, qui a été annoncée ce matin. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'État rachète, alors en partie, l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel, qui était détenue par Nokia. On parle d'actifs hautement stratégiques, c'est un euphémisme, Mathieu.
Oui, exactement, il en rachète 80%, donc cette société, certes petite, 1200 salariés, mais quand même 1 milliard de chiffre d'affaires, est donc nationalisée. Et pourquoi ? Parce qu'elle, effectivement, conçoit et pose surtout des câbles sous-marins entre la France et plus généralement l'Europe et les autres continents. Alors évidemment pour des clients des entreprises, on va dire classiques, et notamment les opérateurs télécoms, mais aussi pour l'armée, pour le ministère de la Défense, et qui en profite, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit en interne, puisque par définition, ce n'est pas confirmé. Mais en tout cas, le ministère des Armées utilise notamment ces câbles pour capter des données, écouter des télécommunications. Et donc, cette activité est stratégique aujourd'hui, encore plus depuis la guerre en Ukraine. C'est pas très nouveau, mais cela, c'était devenu très sensible. Vous savez, c'est une ancienne filiale d'Alcatel. Et quand Alcatel avait été vendu à Nokia, en 2015, il y a près de 10 ans, à l'époque, il y avait un ministre de l'économie qui s'appelait déjà Emmanuel Macron et qui avait voulu que cette société soit préservée. Alors, il a essayé de la vendre à Orange, qui n'en a pas voulu, puis à Thales, qui n'en a pas voulu, BPI France non plus. Bref, à la fin des fins, personne n'en a voulu. Et donc, c'est l'État qui, non pas vole à son secours, parce que cette société est profitable, elle réalise environ 3% de marge, mais remet la main dessus, car cette activité, encore une fois, est hautement sensible pour le ministère des Armées.
Mais sa vocation à rester dans le giron de l'État, ou éventuellement à retourner vers un groupe, c'est une question sans réponse, effectivement.
Ils ont passé 10 ans à ne pas réussir à l'adosser à un industriel français. Ouais. Donc, a priori, ça va rester dans le giron de l'État pendant de nombreuses années. Bon. La donne a changé avec la guerre en Ukraine, véritablement.
Et ça arrive, bien sûr, à 3 jours du premier tour. Donc on avait
oui, et 10 jours après que l'État a également racheté les activités dédiées à la défense d'Atos. Donc, il y a vraiment une reprise en main des activités liées au secteur de la défense.
Ça, non plus, ça n'a échappé à personne. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pechberti. Puis un petit mot encore d'entreprise, des nouvelles de Casino. Parce qu'apparemment, on s'est mis d'accord. Alors, hier soir, en interne, sur les grandes lignes du plan social qui va concerner entre 1300 et 3200 salariés du groupe, on s'est mis d'accord avant une nouvelle audience qui était prévue ce matin en fait devant la Cour d'appel de Paris, la même Cour d'appel de Paris qui avait estimé il y a 3 semaines que les engagements de Casino n'étaient, je cite, pas assez précis. Donc cet accord est conclu entre la direction et les syndicats apparemment. 18h07, on va sur les marchés.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva, ça va le faire. Salvalefaire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Les marchés tiennent bras. Bonsoir Euronext, la défense pour BFM
Bonsoir.
Business. Comment ça s'est passé ce jeudi à la Bourse de Paris, Étienne ?
Pas très bien, vous avez un CAC 40 qui clôture dans le rouge, c'est la troisième séance en territoire négatif avec un spread, un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui est désormais à 82 points de base sur des plus hauts de 15 jours quasiment. Typiquement, vous regardez CNBC, ils sont pas vraiment là sur ce que ça va donner ce soir entre Trump et Biden, ils sont en train de mettre en une Jordan Bardella, c'est pour vous dérner un petit peu l'ambiance. Donc vous avez des investisseurs étrangers, américains qui regardent l'Europe toujours d'un mauvais œil. La Bourse de Paris qui perd 1%, Milan également qui perd 1%. Du côté des valeurs, vous avez seulement 6 sociétés qui clôturent dans le vert ce soir dans le CAC 40. À noter que Kering gagne plus de 4,6% avec notamment des brokers qui reviennent à l'achat estimant que le pire est peut-être passé. Hors CAC 40, vous avez OVH qui, ça y est, sort un petit peu la tête de l'eau après ses résultats, plus 14% ce soir à la clôture. Quand Figeac, qui sera votre invité dans un instant, gagne un peu plus de 5% après un point d'étape sur ses résultats décalés. Et puis, du côté de l'actualité des entreprises, malgré ce climat assez incertain, à noter une grosse acquisition pour Saint-Gobain d'1 milliard d'euros du côté du Royaume-Uni dans le secteur de la chimie de construction. Malheureusement, ça ne profite pas au titre qui plonge avec l'ensemble du marché. Le CAC 40 donc qui clôture en baisse, moins 1% ce soir au fixing à 7530 points. CAC 40 qui a perdu 2% depuis lundi.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance bien sûr. Le Dow Jones qui progresse de 0,17%, 39195 points. L'indice Nasdaq de son côté en baisse de 0,07%. Tout ça à la mi-séance bien sûr. 18h09, deux invités au micro d'Edwige Chevrillon dans un instant. Jean-Claude Maillard, le PDG de Figeac Aero, et Anne-Laure Kiechel, le président de Global Sovereign Advisory, pour parler du sujet des dettes d'État bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je recevrai dans un instant Jean-Claude Maillard. C'est le patron de Figeac Aero, vous savez, qui a connu ces temps très difficiles au moment de la Covid. Et là, il publie ses résultats 2023-2024, ça va beaucoup mieux. Puis en même temps, du coup, c'est Airbus qui connaît un trou d'air, comme il en est un des principaux sous-traitants. Il nous dira comment il voit l'année suivante. Mais tout de suite en studio avec moi, l'économiste Anne-Laure Kiechel, qui est présidente de Global Sovereign Advisory. Bonsoir Anne-Laure Kiechel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous, on va parler d'un sujet qui évidemment nous touche tous en ce moment puisqu'on ne parle quasiment de ça, que de ça à l'occasion de ces élections législatives. Vous êtes une grande spécialiste du Conseil du gouvernement, vous avez été associé gérant chez Rothschild, maintenant vous avez montré votre propre structure, vous conseillez, alors on m'a dit 20 et là je crois que vous êtes déjà à 35, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin. Vous maintenez, ça tombe bien puisque c'est vous qui dirigez. Et puis vous avez publié dans Le Monde une tribune sur la dette publique, où vous dites que finalement, il n'y a pas danger sur la dette. On va revenir là-dessus, mais je ne sais pas si vous conseillez les États-Unis. J'aurais voulu savoir comment vous, et si vous allez regarder le débat ce soir entre Joe Biden et Donald Trump. Est-ce que c'est un débat qui est important, où il sera tellement codifié que finalement, ça ne va rien changer ?
Alors, tous les débats aux États-Unis sont importants parce qu'ils donnent quand même l'état et le pouls des discussions et des débats. Ce qui est en fait très intéressant aux États-Unis, c'est que Biden a des résultats économiques extrêmement bons, extrêmement forts. Quand on regarde un peu l'histoire économique moderne, Clinton avait très très bien fait et Biden a quasiment une embellie à peu près du même acabit. Donc finalement, l'économie, on a un peu envie de dire Trump, on a beaucoup parlé, mais finalement, celui qui a eu des résultats, c'est ouais, beaucoup Biden. Donc ça va être intéressant de regarder ça ce soir.
De voir comment ils vont s'échanger ça. Alors Kiechel, vous regardez, j'imagine, aussi les émissions de télévision, même si vous parcourez le monde en permanence. Vous dites, il n'y a pas de crise de la dette en France. Bah, moi, j'avais le sentiment qu'il y avait quand même un problème de dette.
Alors, sur ces sujets de dette, il y a plusieurs choses qu'on doit regarder. On se concentre souvent sur un ratio dette sur PIB, et quand on voit qu'il augmente, on s'inquiète. Bon. Mais ce n'est pas le seul ratio qu'il faut regarder, ce n'est pas la seule grandeur qu'il faut regarder. Il faut regarder si la dette est soutenable. Et soutenable, ça veut dire, est-ce qu'on est capable de rembourser, de payer les intérêts et de rembourser cette dette. Ça veut aussi dire, est-ce qu'on est capable de se financer de façon continue. Si on fait un parallèle, pas très heureux, mais avec ce qui s'est passé en Grèce, le sujet que la Grèce a eu, c'était tout d'un coup de ne plus avoir accès à la liquidité.
Oui, parce que j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est que vous avez conseillé justement la Grèce au moment de sa crise de la dette.
Absolument. Mais ce qui s'est passé, c'est tout d'un coup plus aucun accès aux marchés financiers. Donc, il est vrai, le ratio de dette sur PIB était très très important. Au pic, il était de 186%. Donc ça, c'est une grandeur. Mais c'est surtout l'accès au marché qui est la chose la plus importante. Or, et on a eu plusieurs tests depuis les élections européennes, l'accès au marché de la France reste extrêmement bon, extrêmement fort. Il est vrai que la dette française est un peu moins sursouscrite maintenant qu'avant les élections. Qu'est-ce que ça veut
dire ? Ça se voit déjà.
Ça se voit. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire ? Quand vous essayez de lever, par exemple, disons 100, vous essayez d'avoir de la demande pour 300, 400, pour justement pouvoir après réduire votre carnet d'offres,
de balles,
si je peux dire. Voilà, votre carnet de balles, exactement. Ce que l'on a vu, c'est qu'alors qu'usuellement la France a plutôt des taux de souscription de 3 fois et au-dessus, on était plus proche de 2,2, 2,4. Donc on a déjà vu qu'il y avait pas juste, parce qu'on en parle beaucoup, l'augmentation du coût de la dette, et j'y reviendrai, mais aussi quelque chose sur la demande française. Donc ça doit nous alerter, mais ça reste encore non seulement extrêmement bon, extrêmement fort, ça s'explique dans les périodes d'incertitude. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, le jour le plus important, c'est juste après le second tour. parce qu'à ce moment-là, il faudra communiquer au marché que tous les lundis, on a des émissions de dette à court terme, que le calendrier fait qu'on aura rapidement des émissions à moyen terme et à long terme. Ça, c'est des jours qui sont définis. Et donc, à ce moment-là, il faudra évidemment que toutes les forces soient mises pour qu'il y ait de bonnes demandes et qu'on sache surtout qu'est-ce qu'on dit au marché. Donc, quelle va être l'orientation politique? Est-ce que la dette va augmenter? Est-ce qu'elle augmente sur des investissements, ce qui est positif? Est-ce qu'elle augmente sur des dépenses? Enfin, le marché va attendre une communication assez rapide sur ces sujets.
Oui, ça c'est un point. Alors, on va quand même dire qu'il y a quand même un petit bémol, un autre bémol, c'est qu'il y a donc 53,2% de la dette française qui est détenue par des étrangers. Au point que certains disent, c'est un peu trop, vous dites, c'est pas forcément trop, mais il y a un risque.
Absolument. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vos détenteurs sont des détenteurs étrangers, vous êtes plus dans leurs mains que dans les vôtres. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, l'Italie, a décidé d'un programme de renationalisation de sa dette. Ça a été décidé à partir du gouvernement Mario Monti, et ça a été décidé parce qu'il avait vu ce qui s'était passé en Grèce, et justement le manque de liquidité. Et il s'est dit, pour nous prémunir de ça, gardons une partie de la dette entre Italiens, si je peux m'exprimer ainsi, comme ça, si on doit faire des ajustements économiques, on les fera entre Italiens, et on n'aura pas à dépendre du marché extérieur. Donc c'est une question tout à fait légitime qui se pose pour la dette française, dans laquelle il faudrait se dire, doit-on nous aussi commencer un processus de renationalisation de notre dette?
Eh bien alors, Kichel, je vous pose la question, puisque vous conseillez les gouvernements, à supposer que la France vous demande votre avis, vous dites quoi, vous?
Je pense qu'il faut commencer un processus de renationalisation de la dette. Je le pense vraiment, sincèrement. Alors il faut le faire extrêmement calmement, progressivement. Vous savez, les choses bien faites sont les choses qui sont faites avec beaucoup de sérénité, de calme et de maîtrise. Mais je pense que c'est quelque chose à faire, et que se dire qu'on voudrait monter, on voudrait gagner les 10 points de renationalisation me semblerait pas du tout absurde et probablement protecteur pour la France.
Lorsque vous voyez les programmes des uns des autres, est-ce que vous dites, oh là là, mon Dieu, la dette, là, je recevais François Eckhall, peut-être que vous le connaissez, qui est le président de Fipeco, qui est un peu une référence en la matière. Il me disait, moi, je vois, de toute manière, on va être à 120-125 % justement, le fameux ratio. Vous dites quoi?
Il est fort possible.
Quelles que soient les hypothèses.
Oui, alors ça dépend quand même beaucoup des programmes, parce qu'il y a des programmes qui ont des... Quand on baisse la TVA, par exemple, ça c'est tout de suite quelque chose qui ampute le budget de l'État. Bon. Il y a d'autres dépenses qui sont des dépenses plus d'investissement ou des dépenses qui peuvent avoir des ricochets.
C'est là où vous dites, vous, s'il y a une bonne dette et une mauvaise dette.
Exactement. Donc, il ne faut pas être contre l'endettement par principe, parce que ça n'a aucun sens. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure, c'est un des pays les plus endettés au monde. Donc, or, ça fonctionne quand même bien. Bon. Mais par contre, il faut regarder à quoi sert cette dette. Et c'est probablement là où il y a des facteurs d'amélioration très forts en France. Si cette dette est utilisée pour de l'investissement, ou si cette dette est utilisée pour être remise dans l'économie, pour qu'elle-même génère de la croissance, il n'y a absolument non seulement aucun sujet, mais on pourrait même se permettre une augmentation temporaire de ce fameux ratio avant qu'il diminue, parce qu'on a pris les bonnes décisions et qu'on a fait des investissements dans des filières particulières. Donc il faut là-dessus, je pense, être pas du tout... Il ne faut pas de doctrine. Il faut vraiment être très précis sur ce qu'on fait. Par contre, gaspiller, dépenser, augmenter sur des choses qui auront peu d'effet, il faut maintenant, quand on est à un niveau quand même en effet élevé de dette, il faut réfléchir à deux fois. C'est pas la même chose quand on est dans la situation dans laquelle on est, ou si on avait 60% de dette sur PIB.
Le fait qu'on ait été dégradé par Standard & Poor's, pas par les autres agences de notation, est-ce que pour vous c'est grave, ou finalement c'est pas si grave? Mais
alors, quand on est d'une catégorie triple A ou double A, c'est à peu près la même chose en termes d'attractivité de la dette. Bon, donc c'est jamais une bonne nouvelle de se faire dégrader. Mais là où on changerait complètement de paradigme, c'est si on était dégradé dans une notation simple A, et on en est plus très loin, puisqu'on est à un ou deux crans de cette notation.
Oui,
donc il faut maintenant la préserver.
Quand Bruno Le Maire dit c'est 17 sur 20, vous êtes d'accord avec lui?
C'est compliqué. Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 16? Mais c'est probablement dans ces ordres de grandeur, oui.
Ouais. En conclusion, Anne-Laure Kichel, qu'est-ce que vous allez regarder, vous? Donc la communication, la communication du gouvernement le 8 juillet au matin, communication vis-à-vis des marchés.
Alors,
le truc...
La chose très, très, très immédiate, parce qu'il y a des temporalités dans ce qu'on regarde, la chose très immédiate, c'est... Alors ça ne sera pas le gouvernement qui va le faire, ça sera les personnes qui parlent aux investisseurs de dettes. On va vraiment surveiller, en effet, ce qui est dit et comment se comportent les premières obligations françaises.
Merci beaucoup. Ben, comme merci. Ça, vous reviendrez nous voir. Merci beaucoup, Anne Lortichel. Hein. Donc, la spécialiste de la dette française, une des spécialistes, la patronne de Global Sovereign Advisory. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business. Lui, il est remonté à Paris, comme on dit, parce que l'occasion en valait le coup. C'est Jean-Claude Maillard, le patron de Figeac Aéro, qui est notre invité.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bonsoir Jean-Claude Maillard.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes donc président de Figeac Aéro. Figeac Aéro, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des gros sous-traitants d'Airbus. Vous avez un point d'observation assez clé, en tous les cas, sur toute la filière aéronautique. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord, question un peu politique. Je ne sais pas si vous avez vu ces sondages, notamment ça, c'est la Chambre de commerce, mais j'ai pu prendre celle de la CEPME. Il y a 58% des patrons qui disent « Ouf, mes investissements !» Ils prévoient de les retarder, ils appuient sur le frein. Est-ce que vous allez appuyer sur le frein ?
On a déjà appuyé sur le frein il y a quelques années.
Oui, non mais là, avec le climat politique, quand vous le...
Non.
Non, c'était ça ma question.
Non,
hein.
Non je pense que les Français vont exprimer un mécontentement. Quand on n'est pas content, on a en démocratie deux manières d'exprimer son mécontentement. On manifeste, mais c'est toujours compliqué de manifester. La méthode la plus simple, c'est de déposer dans l'urne un bulletin de vote qui va vers un extrême, peu importe lequel, celui de la droite ou celui de la gauche. On suppute à peu près quel sera le résultat des élections. Mais une fois qu'un nouveau gouvernement sera en place, il faudra que les entreprises françaises soient compétitives pour qu'on garde le boulot chez nous. Et je ne doute pas que la raison l'emporte et que le nouveau gouvernement aidera les entreprises françaises à bien se porter, parce que c'est clé.
Alors ça tombe bien, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Claude Maillard, c'était juste à la sortie du Covid, et les temps avaient été très très durs pour la filière aéronautique.
Oui.
Et notamment pour vous. Or là, vous publiez vos résultats 2023-2024, vous avez un exercice décalé. Certes, vous êtes toujours en perte, mais quand même, vous-même, vous avez qualifié votre exercice de excellent exercice 2023-2024. Ça veut dire que les perspectives sont sereines ?
Oui, alors le Covid nous a certainement fait beaucoup plus de mal que le nouveau gouvernement fera dans quelques jours. Non, je me satisfais des résultats parce que pour la troisième année consécutive, on fait mieux que les prévisions qu'on annonce au marché. Ce n'était pas une bonne habitude que nous avions par le passé. Donc très content d'avoir tenu nos objectifs et dans certains cas d'avoir fait un petit peu mieux. On a fait mieux en termes de chiffre d'affaires, on a fait mieux en termes de génération de free cash flow, ce qui est important pour rembourser notre dette. J'ai écouté l'émission juste avant de passer et j'ai vu que finalement notre dette à Figeac Aéro, elle était plutôt pas mal. Hein.
Elle est mieux que la dette française.
On a 70% de notre chiffre d'affaires en dette. C'est mieux que la France qui a plus de 120%. Donc non, ça va, plutôt content.
Les restructurations, ça y est, elles sont derrière vous ?
Pardon,
les restructurations.
Les restructurations sont complètement derrière nous. On a embauché sur l'exercice passé 750 salariés au travers le monde. 40% de ces créations d'emplois, c'était en France. Le reste, c'était à l'étranger. En mars 2025, on aura retrouvé notre chiffre d'affaires de mars 2020. Donc, les 5 ans de Covid seront plus qu'un mauvais souvenir.
Un très mauvais souvenir pour vous, hein, Jean-Claude Maillard.
Oui, très mauvais.
Très mauvais. Vous êtes posé des tas de questions sur l'avenir de Figeac Aéro, on s'en souvient. Un mot, justement, parce qu'il y en a un qui est dans une drôle de crise. Bon, c'est Boeing, bien sûr, mais c'est son sous-traitant Spirit Aérosystèmes. Donc, il pourrait être racheté par Boeing. Vous avez, en 2017, il vous a passé une très grosse commande de 600 millions d'euros, je crois, sur 10 ans. Ça fait 200 embauches à la clé. Est-ce que ça va avoir un impact pour vous ou pas ?
Non. Il est question, c'est pas un scoop, il est question que Spirit soit racheté en partie par Boeing et l'autre partie par Airbus. Mes clients vont changer, ce sera plus Spirit mon client, ça sera Boeing pour les programmes Boeing et ce sera Airbus pour les programmes Airbus. ça me supprime un intermédiaire.
C'est plutôt positif. Et justement, plutôt positif. D'accord,
oui.
Intéressant. Le trou d'air d'Airbus, vous avez suivi, j'imagine, ce qu'a dit Guillaume Faury en début de semaine, là. Un sacré trou d'air. Mais en fait, pourquoi? Parce que la supply chain, dont vous faites partie, en fait, n'arrive pas à suivre.
Je trouve que on est des latins et on est des français, on est excessif quand on n'est pas très content, on vote pour les extrêmes, on est excessif quand on voit Airbus qui se prépare à livrer 770 avions au lieu de 800, c'est-à-dire 4% de moins que sa prévision, on leur tombe dessus, on les pénalise et ils perdent 10 points sur leur cours de bourse, sur 100 milliards de capitalisation, ils perdent 10 milliards parce que ils font 4% du chiffre d'affaires en moins. Je trouve que la construction aéronautique est durement touchée.
Mais il y a quand même, d'accord, on a compris que vous trouvez que voilà, c'est un peu excessif tout ça, qu'il y a quand même 770 commandes. Mais il y a un problème, il l'a dit Guillaume Faury, oui, il n'y a pas
alors,
si longtemps.
Par contre, moi,
il a dit, il y a un problème de supply chain,
absolument.
Que ça soit en termes de matières premières, de compétences. Et puis voilà, il faut délivrer, ils n'arrivent pas à délivrer, et vous non plus.
Complètement d'accord avec vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un souci. Le souci, c'est que après le Covid, beaucoup d'entreprises ont eu des soucis financiers et les fonds propres ont eu du mal à se reconstituer dans toute la supply chain aéronautique. Ça a été fait à Figeac Aero, mais ça n'a pas été fait partout. On a malheureusement dû se séparer de pas mal de personnel pendant la crise et on a un peu trop cru que ce serait facile de récupérer ce personnel quand les choses iraient mieux. Mais ce personnel, et c'est bien naturel, il a fait autre chose et on n'arrive pas à retrouver le personnel qu'on a lâché pendant la crise. Et donc, la supply chain a du mal à livrer ce que les donneurs d'ordre attendent. Alors, heureusement, Figeac Aero livre ce qu'on doit livrer, mais c'est une course pour laquelle on avance à la vitesse du plus lent et pas à la vitesse du plus rapide.
D'accord. Et en termes d'approvisionnement, vous n'avez pas de soucis, vous ?
On a eu beaucoup de soucis sur le titane et les aciers. Mmh. Le titane, c'est quasiment en train de se normaliser. L'aluminium, il n'y a jamais eu de problème. Quant aux aciers, c'est encore pénible, c'est encore compliqué.
Ouais. Juste en un mot pour clôturer cet entretien, Jean-Claude Maillat, l'année prochaine, la perte sera réduite à zéro, parce que là, vous l'avez réduit, mais c'est quand même encore 12 millions d'euros. Il faut dire que vous êtes pénalisé par une charge financière importante, surtout avec l'augmentation des taux d'intérêt.
C'est ça.
2024-2025, vous prévoyez...
On devrait être à l'équilibre, oui.
Et la dette financière ?
Elle va continuer à baisser. Elle va continuer à baisser grâce au free cash flow qui sont l'exercice précédent qui ont été records. 24 millions de free cash flow, j'ai jamais fait ça depuis 35 ans. Donc c'est bien. Et ces free cash vont nous aider à réduire la dette.
Donc ça y est, optimiste, on peut dire que Figeac Aero est sorti de la grosse ornière dans laquelle elle s'était un peu embourbée.
Et si on clôture sur le sujet de la dette qui était le sujet de l'émission précédente, j'espère que la France pourra baisser sa dette.
Oui.
Mais on élit certainement des courtisans qui ont envie d'être agréables et je ne suis pas sûr qu'on puisse à la fois courtiser les Français pour avoir leur voix et baisser la dette du pays.
Mais c'est la politique, ça.
Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'on aime BFM Business. Je ne suis pas capable d'en faire et que je ne ferai jamais.
Merci beaucoup Jean-Claude Maillat d'avoir été avec nous. Merci. Le patron donc de Figeac Aero, tout de suite, restez avec nous. Tout de suite, Guillaume Paul nous apporte toute l'écho.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
BFM Business, l'info éco.
18h30, il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, l'avertissement de la CPME à 3 jours du premier tour des législatives. L'organisation patronale sort du bois pour alerter sur les inquiétudes des patrons de TPE-PME. D'après une étude réalisée après l'annonce de la dissolution, un patron sur 3 fait aujourd'hui
de l'ordre public et de la stabilité politique sa priorité absolue. Mais on en reparlera bien sûr dans un instant. Sinon, c'était attendu, c'est fait en plein milieu de cette campagne toujours. Ça y est, le décret portant sur la dernière réforme de l'assurance chômage est paru aujourd'hui au journal officiel. Les syndicats dénoncent ce soir un déni de démocratie. Côté entreprise, en pleine campagne justement, c'est une opération de nationalisation qui n'est pas passée inaperçue, qui a été annoncée ce matin. L'État rachète en partie l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel qui était détenue par Nokia, actif hautement stratégique. Quasiment 100% des communications numériques mondiales sont assurées par ce biais aujourd'hui. Et puis chez Casino, visiblement, s'est mis d'accord hier soir en interne sur les grandes lignes du plan social qui pourrait concerner entre 1300 et 3200 personnes. On s'est mis d'accord avant une nouvelle audience prévue ce matin devant la cour d'appel de Paris. 18h32, on vient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts pour commencer à décrypter l'actu. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, nous sommes de retour. Good evening business en direct jusqu'à 20h, bien évidemment. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à
Audrey
tous.
Audrey Tcherkov avec nous comme tous les soirs, bien sûr. Et nos experts qui sont là, Mathieu Pêche-Bertier là.
Bonsoir.
Emmanuel Le Chypre est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Edwige Chevrillon, rebonsoir Edwige.
Bonsoir.
Un mot quand même de ce que nous a dit Anne-Laure Kieschel, donc présidente de Global Sovereign Advisory. Alors elle, c'est les dettes d'État au quotidien. Pas forcément très inquiète pour l'instant, en tout cas,
non,
de ce qui se passe sur la dette française. Pour l'instant.
Ce qu'elle dit et ce qu'elle a écrit là, dans Le Monde, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de crise de la dette pour l'instant.
Oui.
Elle dit la note double A. C'est, ça reste une excellente note. Petit bémol, attention, on est en train de se rapprocher de A. Auquel cas, là, il y aurait une vraie crise de la dette. Ça, c'est un point important qu'elle dit. Autre indicateur, quand même, un peu autre bémol, si vous voulez. Moi, je n'avais pas mesuré ça. Je ne sais pas si Emmanuel Le Chypre l'avait mesuré. C'est qu'en fait, quand tous les lundis, l'État français donc, fait des émissions. Et à chaque fois, elles sont sursouscrites pour 5 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, on n'est plus qu'à 2 fois et demi. Donc, il y a vraiment déjà un impact de l'élection législative.
Oui, c'est vrai. Alors, vous avez raison. En fait, elle a un double message, parce qu'elle dit d'une part qu'il n'y a pas de sujet sur le ratio dette-PIB parce qu'on sait rembourser les intérêts pour le moment, et que par ailleurs, on continue, comment dire, enfin, notre dette continue à être soutenable. Ceci dit, ce qu'elle dit aussi, et là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, plus de 50% des détenteurs de la dette française sont étrangers, 53%, et donc on dépend clairement du marché extérieur aujourd'hui, et que peut-être faudrait-il penser à faire comme l'Italie, à songer à un programme de nationalisation de la dette. Emmanuel, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que les investisseurs internationaux et les acheteurs de notre dette n'échappent pas à l'attentisme qui a saisi finalement tous les acteurs de l'économie française à l'annonce de la dissolution. C'est-à-dire que grosso modo, à l'annonce de la dissolution, tout le monde finalement s'est figé. C'est vrai pour les ménages, c'est vrai pour les chefs d'entreprise, c'est vrai aussi pour les investisseurs qui attendent de voir effectivement ce qui va se passer, puisque on est quand même, il faut rappeler, dans une configuration assez inédite où les deux forces qui sont en tête aujourd'hui dans les sondages sont des forces plutôt extrêmes avec des propositions plutôt extrêmes, donc assez polaires, ce qui fait que finalement il y a quand même un gros pari, notamment en matière fiscale, sur ce qui va sortir des urnes. Et ça explique en partie cet attentisme. Après, on va voir ce qui va se déboucher. La réalité, c'est que sur les marchés aujourd'hui, le scénario qui est regardé, c'est plutôt le scénario d'une victoire du Rassemblement National. Aujourd'hui,
qui a vachement aseptisé son programme, enfin son programme économique, alors, en tout cas, alors, c'est un programme libéral.
Alors, si vous voulez, on a fait la simulation, on en avait déjà parlé hier, et vous pourrez lire l'article qu'on sort sur le site BFM Business. Le modèle qu'on a fait tourner pour évaluer l'impact des programmes, il est effectivement assez intéressant. C'est-à-dire que sur le papier, vous avez quand même un programme du nouveau Front Populaire qui engage des sommes massives. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des points de PIB entiers de politique économique. De l'autre côté, vous avez un programme qui est beaucoup plus timide. Et donc finalement, on se retrouve sur l'impact de ce programme du nouveau Front populaire, l'impact classique des programmes de gauche, comme la relance de François Mitterrand en 81, hausse des salaires, donc hausse de la consommation, mais qui profite surtout aux biens importés, dégradation de la compétitivité et de la situation financière des entreprises. Bref, en 2027, si on applique tel quel le programme du nouveau Front populaire, c'est 2 points de croissance en moins, 2 points de chômage en plus, 3 points de déficit public en plus et 6 points de déficit commercial en plus. En revanche, le programme du RN, vous avez assez peu d'impact sur les chiffres. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'incertitude derrière ce qui va se passer pour le RN.
C'est qu'on ne sait pas grand-chose.
Voilà. Oui. Et pour le RN, si vous voulez, ce qui se passe, c'est hors bilan. C'est qu'est-ce qui va se passer avec nos partenaires européens? Qu'est-ce qui va se passer si on met de la préférence nationale? Qu'est-ce qui va se passer sur les... Donc d'un côté, vous avez ce qu'on peut appeler le chèque en bois, qui est le Front populaire, et le chèque en blanc, qui est le programme du Rassemblement National.
C'est là, on la garde.
Vous avez le choix entre les deux.
Comprenez la perplexité des marchés financiers, le fait qu'on est un petit peu plus méfiant, évidemment. Voilà, c'est ce que traduisent aujourd'hui les marchés. Mathieu Pechberti.
Non, mais de là à ce que la dette française soit investie directement par les Français, moi, je ne crois pas une
Sauf que regardez ce que disent nos partenaires allemands aujourd'hui.
Ça se faisait.
Oui, alors eux, en effet, sont plutôt très inquiets.
C'est déjà le cas pour 47%.
Alors,
non, mais par l'intermédiaire de banques et de gestion d'actifs. Mais il n'y aura pas de placement de dette française comme c'était au Japon il y a 30 ans et les Japonais s'en sont
la dette japonaise est beaucoup plus domestique, on n'en est pas là. Vous parlez de l'interrogation des interrogations des patrons. Bah justement, vous voulez parler de cette étude qu'a sortie ce matin la CPME, les petits patrons qui disent clairement dans sa dernière étude: depuis la dissolution, leurs priorités ont clairement changé. On va en parler puisqu'il est avec nous. Je le remercie d'avoir patienté. C'est Jean-Yves Duménil, le secrétaire général de la CPME, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Duménil. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a pas mal de chiffres intéressants, très intéressants. Mais un chiffre qu'on développait déjà dès 18h tout à l'heure sur BFM Business. Vous dites aujourd'hui, pour un petit patron sur trois, la priorité, c'est plus telle ou telle baisse de taxes, c'est plus les difficultés de recrutement, c'est plus les difficultés d'accès au financement, c'est l'ordre public, la paix civile, rien que cela, c'est devenu leur priorité. C'est quand même assez révélateur du climat ambiant, hein, monsieur Duménil.
Oui, ça dénote clairement une inquiétude des chefs d'entreprise. Ce sont des questions qu'on pose régulièrement dans un baromètre de conjoncture, questions traditionnelles hein, sur l'inquiétude, est-ce que c'est le carnet de commandes, est-ce que c'est plutôt le financement, est-ce que c'est le prix de l'énergie, enfin toutes ces préoccupations habituelles des chefs d'entreprise. Et effectivement, cette fois-ci, on a rajouté deux questions, l'une sur l'instabilité politique et l'autre sur ce qu'on a appelé le maintien de la paix civile. Les mots sont assez forts. Et effectivement, ce sont les préoccupations qui arrivent aujourd'hui en deuxième et en troisième position dans l'esprit des chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment une inquiétude extrêmement forte qui est finalement pas très étonnante parce qu'on est dans une situation d'incertitude à peu près totale sur ce qui va se passer. Et par contre, on sait qu'il y aura des conséquences économiques. Donc, du côté des chefs d'entreprise, il y a une incertitude et il y a une forme d'attentisme aussi maintenant.
Oui, et alors il y a un autre chiffre qui nous a interpellés. Quasiment 60% des entreprises interrogées disent qu'elles mettraient sur pause l'ensemble de leurs projets et de leurs investissements si le nouveau Front populaire recueillait la majorité. Ça, c'est assez intéressant parce que le chiffre est beaucoup moins important concernant le Rassemblement national. Et Bruno Le Maire disait il n'y a pas si longtemps que si le RN arrivait au pouvoir, la France ferait faillite et on fermerait des usines. Mais en fait, on se rend compte que les patrons et les entreprises ne suivent pas.
En tout cas, dans cette enquête, il semblerait qu'ils soient effectivement moins inquiets sur les conséquences économiques et celles de l'arrivée au pouvoir du RN, sachant que c'est vrai que dans les mesures économiques de ce parti, elles sont moins fortes et moins directement prégnantes sur les entreprises. Il y a une incertitude très forte, par exemple, sur la question de la retraite. On voit bien qu'il y a la position n'est pas forcément très claire, avec un pas en avant, un pas en arrière, qui inquiète les chefs d'entreprise parce qu'ils considèrent que financièrement, les finances publiques de la France ne permettent pas de revenir en arrière sur la question des retraites. Et puis après, c'est vrai que sur les mesures proposées par le nouveau Front populaire, en tête des préoccupations, il y a évidemment l'augmentation du SMIC à 1600 500 euros net, oui, qui percuterait l'ensemble de la grille des salaires, hein, pas simplement le SMIC.
Et,
et puis, il y a cette question également d'un passage éventuel à 32 heures payé 35. Donc, ces résultats, finalement, ne sont pas forcément très étonnants.
Précision sur le SMIC à 1600 euros net, là, qui arrive en haut de la pile sur les inquiétudes des patrons. 50% de vos adhérents ont dit « je répercuterai cela sur les prix de vente ». 27% disent « je licencie ». 14% disent même « je cesse mon activité ». C'est vous dire à quel point cette inquiétude est prégnante. Edwige Chevrillon,
oui,
a une question.
Oui, en même temps, d'après ce que nous a expliqué l'autre jour donc les représentants du nouveau Fonds populaire, il y aura un fonds qui sera dédié pour les PME, les TPE, pour financer cette hausse du SMIC.
Oui.
Alors, ça fait usine à gaz, on est bien d'accord.
Ce qui est encore plus aberrant.
Enfin, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, cela dit, il y a aussi une hausse du SMIC dans le cadre du programme du Rassemblement national, même si là aussi, ça reste très flou. J'ai envie de dire, c'est assez logique. Dès lors que vous ne savez pas du tout à quelle sauce vous allez être mangé sur le plan économique avec le Rassemblement national, c'est un peu facile pour eux, parce que du coup, ils disent, on l'a bien vu, ben, encore une fois, ce grand oral où vous étiez, il y avait, on supprime les impôts de production, on ne touche pas à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est du pain béni pour les entreprises. Mais il faut attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être, ils ont peut-être un programme économique.
Oui, et c'est vrai par ailleurs que sur les questions de fonds, à chaque fois qu'on les interroge, ils proposent de faire un moratoire. Emmanuel Le Chypre avait une question pour vous.
Non, c'était sur la question, parce que vous évoquiez les retraites, Jean-Eudes. Bah, en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit un facteur qui soit déterminant pour choisir entre les deux, puisque finalement, bon, grosso modo, on peut presque les renvoyer tous les deux, le RN et le Nouveau Front Populaire, dos à dos sur le sujet des retraites, modulo quelques différences, mais globalement c'est à peu près la même philosophie.
C'est vrai, mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette enquête, il me semble aussi, c'est qu'on voit bien que du côté des chefs d'entreprise, il y a deux façons de regarder les programmes. Il y a les conséquences directes sur leur propre entreprise, avec les quelques points qu'on a évoqués là, et puis il y a aussi les conséquences, en tout cas telles qu'ils les appréhendent, sur l'économie française, avec évidemment un second temps, dans un deuxième temps, les conséquences que ça pourrait avoir sur leur propre boîte. Mais voilà, il y a cette double grille de lecture, et évidemment sur la question des retraites, c'est pas les gens qui sont nécessairement concernés directement, mais ils considèrent que ça aurait un impact très fort sur les finances publiques avec ce qu'on peut imaginer derrière si notre pays venait à être mis en défaut avec toutes les conséquences catastrophiques que ça pourrait générer. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que sur la fiscalité au sens large du terme, ce que disait Edwige Chevrillon est parfaitement exact. C'est-à-dire que dans un cas, il y a plus de précision, dans l'autre cas, il y en a beaucoup moins. Mais dans l'état d'esprit général, d'un côté, on garantit, on promet une augmentation très forte de la fiscalité et des cotisations sociales, et c'est pleinement assumé d'ailleurs, tout en disant que ça sera une minorité, ce qui reste à prouver. Et de l'autre côté, au contraire, on continue, et c'est plus rassurant sans doute pour les entreprises, de parler par exemple de diminution des impôts de production, qui est l'impôt le plus stupide au monde. Donc voilà, il y a cette incertitude profite sans doute effectivement à un côté plus qu'à l'autre.
Edwige,
Jean-Eudes, on vous écoute là depuis 5 minutes. La réponse est quand même assez claire, c'est qu'en fait, les chefs d'entreprise, notamment ceux de la CPME, ils soutiennent, alors à défaut de voter ensemble pour le gouvernement actuel, ils vont voter le Rassemblement national. Vous soutenez le Rassemblement national. Ça, c'est clair, en vous
non,
écoutant.
Nous, en tout cas, on ne soutient ni le Rassemblement national,
ni personne. Vous écoutant.
C'est évidemment pas notre rôle, hein, vous le comprenez bien.
Oui, je suis d'accord,
bien.
Mais enfin, en vous écoutant, on voit bien que le vote, il ira plutôt au Rassemblement national.
C'est possible. Après, on ne sait pas ce que font les gens dans le secret de l'isoloir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans cette enquête, le Rassemblement national fait moins peur que le Front Nouveau Front Populaire. Voilà. Ce qui ne veut pas dire quand même que les gens soient rassurés. Hein. Quand
non,
vous
non,
avez
oui,
36% des répondants qui vous disent qu'ils mettront sur pause à la fois leurs investissements et leur recrutement, c'est plus d'un tiers des chefs d'entreprise. C'est quand même assez inquiétant. Hein.
Oui, non, mais on comprend bien en fait que c'est un choix par défaut, parce que 80%, c'est quand même énorme, des sondés craignent qu'il y ait une mise sous tutelle de la part du FMI si l'extrême gauche arrivait au pouvoir. Donc, ça dit l'inquiétude.
Exactement, très forte.
D'un mot pour finir, Jean Duménil, est-ce que vous avez été un petit peu déçu, certains l'ont été, que les principales organisations patronales, donc CPME, MEDEF et UDP, n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué commun? Est-ce que Vous dites quoi? On ne s'adresse pas forcément à la même clientèle, pardon de le dire comme ça, mais finalement, est-ce que c'est...
Chacun a communiqué d'abord de son côté. Les trois organisations n'ont pas nécessairement le même type d'entreprise, donc ce n'est pas illogique qu'elles aient une façon de voir les choses qui, de temps en temps, soit un peu différente. Maintenant, on a aussi affiché une unité patronale quand les candidats ont été reçus salle Gaveau. Et là, il y avait non seulement CPME, MEDEF et U2P, mais un certain nombre d'autres organisations patronales comme ITIC, le métier, etc. Donc voilà, il y a une position, je pense, assez ferme et unie des chefs d'entreprise. Et en tout cas, les plus responsables d'entre elles n'appellent pas à voter, évidemment, pour ou pour l'autre, mais à bien regarder les programmes à la loupe avant de se prononcer.
Voilà, donc pour cette étude, ce sondage de la CPME réalisé, donc annoncé, publié ce matin. Merci beaucoup Jean-Hugues Dominil, secrétaire général de la CPME. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, quelques minutes sur BFM Business. On va rester en France, nous.
Oui, exactement. Alors on parle de l'actualité des entreprises pour terminer. En pleine campagne, justement, il y a une opération de nationalisation qui n'est pas passée inaperçue, qui a été annoncée ce matin. Mathieu, on en parle avec vous. Donc l'État rachète en partie l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel qui était détenue par Nokia, et on peut dire que c'est un actif hautement stratégique.
Oui, il rachète 80%, donc quasiment la totalité. Donc oui, c'est une nationalisation, il faut le dire. Et pourquoi? Parce que cette activité, qui est l'ancienne filiale d'Alcatel, aujourd'hui une filiale de Nokia, qui avait racheté l'opérateur, enfin l'équipementier télécom il y a maintenant près de 10 ans, installe des câbles sous-marins d'assez grande taille, pour vraiment communiquer entre les pays et avec des débits de données extrêmement importants. Ils en déroulent au fond des mers, à la fois pour des entreprises, notamment les GAFA, Google, Facebook, mais aussi en partie pour l'armée française, pour les services de renseignement, qui donc utilisent ces câbles pour transférer leurs données, communiquer avec d'autres pays, mais également, c'est ce qui se dit en tout cas en interne dans cette société, ce qui est difficile à être confirmé évidemment, parce que ce sont des sujets sensibles, mais qui utilisent aussi cette activité pour faire des écoutes, pour capter des données, pour faire du renseignement véritablement militaire. Donc c'est une activité sensible qui avait été repérée en fait depuis 20-30 ans, c'était à l'époque, dans une, pour ceux qui ont connu la compagnie Générale d'Électricité, l'ancêtre d'Alcatel, d'Alstom, etc. Ouais. Donc c'était encore une fois des entreprises quasiment publiques, en tout cas à l'époque, qui étaient très proches de l'État. Et puis, quand Alcatel a été vendu à Nokia, donc groupe finlandais, à l'époque le ministre de l'Économie, qui était Emmanuel Macron, avait souhaité que cette petite société ne termine pas dans le giron de Nokia. Donc le gouvernement à l'époque a essayé de la revendre à Orange, ils n'y sont pas arrivés, à Thales, ils n'en ont pas voulu non plus, à BPI France qui n'en a pas voulu non plus, ensuite Nokia a voulu la garder, il y a eu le Covid, bref, ça a traîné, puis évidemment ce qui se passe depuis 2 ans et la guerre en Ukraine a quand même clairement renforcé ce genre d'attention des gouvernements de manière générale et particulièrement du gouvernement français sur ces activités. Et l'État donc discutait depuis un an, ce que on nous a dit à Bercy, pour reprendre cette activité à Nokia. C'est un petit investissement de l'ordre de 100 millions d'euros. Il y a quand même 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 1 200 salariés, mais encore une fois...
Est-ce qu'on n'a pas voulu un petit peu accélérer juste avant le premier tour d'agislatif?
C'est la question qu'on se pose, et à Bercy, on nous répond de manière un peu nuancée, que ça faisait un an qu'ils discutaient. Donc ça aurait pu être annoncé il y a 15 jours, ça aurait pu être annoncé dans 15 jours. Il se trouve que c'est annoncé maintenant.
Et je vous rappelle aussi qu'avant la dissolution, on avait parlé du fait sur ce plateau que l'État allait racheter les activités hautement stratégiques du fameux groupe Atos. Donc on sent bien qu'il y a une tendance de fond.
Oui, et c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que cette acquisition résonne aussi, évidemment, dans le contexte géopolitique, mais aussi parce que le ministre de l'Économie a déjà fait une opération similaire pour les activités de défense d'Atos, qui concernent les Rafales. Là encore, des écoutes du renseignement. Donc il y avait des activités qui avaient été externalisées depuis 20-30 ans dans les groupes privés qui sont... petit à petit repris en main par l'État.
Non, juste un petit point. En quoi ils sont stratégiques, ces câbles? Parce qu'il y a Nexans qui fait beaucoup de câbles. En quoi ils sont stratégiques?
C'est ce que je disais. C'est qu'en fait, une partie de ces câbles sont utilisés par l'armée pour communiquer, notamment avec d'autres pays, d'autres services de renseignement. Et aussi pour écouter et pour capter des données. Ça, personne ne le dira jamais, mais c'est ce qu'on entend beaucoup en interne et dans l'entourage du ministère des Armées. C'est qu'il y a aussi, c'est aussi une manière pour l'armée d'écouter les données qui sortent ou qui rentrent dans notre pays.
Bon, Emmanuel, ça vous inspire pas plus que ça, les câbles? J'ai dit non, c'est pas un commentaire à faire.
Franchement,
je le voyais les bras croisés là.
Ça reflète quand même un peu l'époque dans laquelle on est.
Mais bien sûr, évidemment.
On avait parlé encore une fois des activités de défense d'Atos, c'est les logiciels à l'intérieur des Rafales, donc ça concerne l'armée. Là, on est quand même en train d'élargir ce champ-là. Ça rigole plus. Les Américains font ça depuis plusieurs années. Nous, on critiquait souvent l'Union européenne et la France pour être un petit peu en retard là-dessus. Maintenant, il y a des voilà, c'est deux petites opérations, mais
absolument.
Oui, 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 c'est clair. Le réarmement est en marche.
Important. Gros sujet de souveraineté. Oui. Nous avons une grosse minute pour vous demander ce que. Alors déjà, si vous allez regarder le débat de Trump-Biden, qui sera diffusé chez nos amis de BFM TV, d'ailleurs, diffuse la nuit prochaine.
3h du matin.
Non, ce qui est navrant dans cette histoire, juste pour faire remarquer qu'on va plus se soucier de l'état de santé de ces messieurs que du fond de leurs programmes électoraux, finalement, notamment économiques.
Alors, surtout pour un, oui, en effet.
Enfin, pour les deux. Même pour les deux, ça se trouve. Emmanuel.
Ça va être tellement codifié.
Oui.
De toute manière.
Oui, en plus, je suis pas sûr que. Alors, pour le coup, le débat. Je suis pas sûr que ce soit l'économie qui clive le plus.
Je ne pense pas, non.
En plus, puisque là, ils sont sur des sujets très importants.
L'avortement,
par exemple.
L'immigration.
Et c'est vrai que c'est sans doute. Je suis curieux de voir sur quoi ils vont s'opposer. Sur l'économie.
Sur l'âge du. Non, pas sur l'économie, sur l'âge du capitaine.
Mais je veux dire, sur les sujets économiques.
Parce que.
Je dis pas qu'ils arriveront à.
Non, mais Donald Trump a dit qu'il voulait supprimer l'IRA. Or, il faut quand même voir que les résultats économiques de Joe Biden sont excellents. Donc, alors qu'on attendait plutôt Donald Trump sur ce point-là.
Oui.
Ça, il s'est un peu à front renversé.
Oui, c'est
ça
qui est intéressant. C'est vrai. Vous avez raison. Mais il a fait quelques déclarations qui annoncent. Qui présentent une Amérique en déclin total depuis 4 ans, mettant l'accent sur l'inflation. Non, et la crise de l'immigration, c'est faux.
On sait bien que c'est rarement aussi bien porté.
On est bien d'accord.
Le défi de Biden de défendre son bilan économique.
Mais les fake news lui ont souvent porté chance. Enfin, il a quand même gagné. Alors,
si on en croit ce que disent ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que tous les exercices de prévision des résultats politiques à partir de l'économie montrent que en fait les électeurs ne se déterminent pas sur le programme pour la législature à venir, mais sur le bilan, en gros, du candidat sortant. C'est-à-dire que c'est ça qui
et la santé des marchés financiers et la santé de la bourse.
C'est ça qui ça fait partie du bilan, etc. Et que grosso modo, les bons bilans font les bons candidats, et que 6 mois à l'avance, on peut dire en général qui sera le prochain président des États-Unis avec certitude. Ça marche sur tous les présidents américains depuis la Deuxième Guerre mondiale, sauf un qui était Nixon. Parce que c'était la guerre du Vietnam et que finalement Nixon gagne de
contexte particulier.
Là, on va voir, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va revivre ce que finalement les démocrates ont connu quand l'économie était bonne et qui passe, ou bien est-ce que ce sera pas suffisant cette fois-ci? Est-ce que les sujets sociétaux l'emporteront ou pas?
Et alors, est-ce que vous savez expliquer pourquoi
Joe Biden a sur le bilan économique, il a des chances.
Oui, mais alors est-ce que vous savez expliquer pourquoi le débat arrive aussitôt dans la campagne? Parce que c'est la première fois.
Ça a été dit
qu'un premier débat arrive aussitôt en termes de calendrier. Vu l'état de santé physique et pas que de Joe Biden, c'est quand même ça pose question. Enfin, pourquoi a-t-il accepté ce débat maintenant?
Parce qu'il n'arrive pas à renverser la vapeur depuis des mois et qu'il est obligé de prendre un risque aujourd'hui.
Non, mais surtout c'est qu'il y a personne d'autre du côté des démocrates, parce que là ils sont tous en train de tester des hypothèses. Mais il n'y a personne d'autre. Kamala Harris, ça a été une véritable catastrophe. Alors, c'est une grosse déception. Mais il n'y a personne d'autre.
Oui, Kamala Harris, c'est vrai qu'on nous avait promis, vous avez raison, une gouvernance
la Lune,
à deux.
Biden devait faire même une sorte de demi-mandat.
Oui, absolument. Ah non, mais c'était un vrai duo. Et elle a quand même disparu du paysage assez vite.
C'est vrai que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un peu lui qui a sans doute pris goût à l'exercice.
Oui,
c'est vrai que c'est vrai qu'elle a déçu.
On l'a vu sur rien.
Sur rien.
C'était
elle a disparu.
Elle plaisait peut-être beaucoup plus aux Européens qu'aux Américains.
Aussi. Eh bien, on verra
souvent chez les démocrates.
Se donnera ce débat si on parle économie, si on parle de l'IRA, si on parle droit de douane.
Vous en parlerez demain.
On en parlera demain. On débriefera ça, évidemment. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été là ce soir sur BFM Business. Mathieu Pechberti, Emmanuel Lechypre, Edwige. On se retrouve lundi, bien sûr.
Avec Philippe Aguillon. Voilà, on verra
ce qu'il
nous dit de son premier tour.
Ah oui, sacré débrief.
Voilà, sacré débrief.
Lundi haut en couleur, absolument. 18h57, nous on revient en attendant dans un instant.
Oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente... Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, deuxième heure de Good Evening Business. On est là, on est en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Plein de choses ce soir encore, à commencer par ce temps fort. Ça sera la nuit prochaine aux États-Unis, à Atlanta.
pour le coup, ce premier débat de la campagne présidentielle américaine entre Joe Biden et Donald Trump. Débat au cours duquel on va plus se soucier l'état de santé de ces messieurs que de leur programme. On va retrouver Antoine Delard qui est sur place à Atlanta dans un instant. Puis on va en parler avec nos experts. Ils seront là dans un quart d'heure.
Et oui, alors avec eux, nous allons aussi parler de l'inquiétude des petits patrons à l'approche des élections. Donc les patrons des TPE et des PME qui disent clairement leur priorité du moment, ce n'est plus telle ou telle baisse d'impôts, mais plutôt l'ordre public et la stabilité politique. Donc ça en dit long sur l'état d'esprit. Et puis on fera le constat que finalement, dans cette campagne, on a beaucoup parlé de, on a parlé de beaucoup de choses, mais très peu, voire pas du tout, de lutte contre le chômage. C'est un thème qui est resté relativement absent des débats.
Quand on y pense, oui, c'est quand même assez incroyable. Qui sera avec nous pour parler de tout ça? On sera avec le communicant Cyril Lachèvre, avec l'économiste atterré Henri Sterdignac, avec le directeur du think tank libéral Nicolas Marquez. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr, en direct.
Voilà, ça nous promet un débat animé.
Good evening business, le journal.
Donc, bah oui, ça sera l'événement de la nuit prochaine aux États-Unis, le premier débat de la campagne américaine entre Joe Biden et Donald Trump, un peu plus de 4 mois de l'élection. Bonsoir Antoine Lard, vous êtes à Atlanta, c'est là que va se dérouler ce fameux débat, débat qui sent déjà un petit peu la poudre, Antoine.
Oui, absolument, parce que les deux hommes se détestent et ne s'en cachent pas. On s'attend donc à des échanges extrêmement musclés ce soir, avec d'un côté Donald Trump qui va attaquer Joe Biden sur son âge, 81 ans, en disant qu'il n'est pas apte à diriger le pays et encore moins à rempiler pour un nouveau mandat. La campagne de Trump, d'ailleurs, a déjà donné le ton ce matin en diffusant deux clips qui se moquent de Sleepy Joe et qui mettent en cause ses capacités mentales et physiques. Trump lui-même a déjà commencé les attaques en disant que Biden ce soir aurait besoin d'une piqûre de dopage dans les fesses pour être en forme. Et puis en face, Joe Biden va attaquer Trump en disant que c'est un apprenti dictateur, un danger pour la démocratie. Donc le ton est donné à l'image de cette campagne finalement qui est une campagne très négative. C'est vrai qu'on mobilise pour, contre Joe Biden ou contre Donald Trump, mais pas pour un projet. Alors pour éviter que ce face-à-face tourne au pugilat, des règles très strictes ont été imposées et il n'y aura pas de public pour éviter les débordements et puis interdiction de se couper la parole. Les micros des candidats seront fermés quand ça n'est pas à leur tour de parler.
Faudra bien ça effectivement pour maintenir un petit peu de calme. Merci beaucoup Antoine. Antoine Lard donc à Washington. Débat que vous pourrez suivre à 2h15, notamment chez nos confrères de BFM TV, avec un débrief bien sûr dans la foulée. On est à un peu plus de 4 mois et demi de cette élection présidentielle américaine. En France, les législatives, 3 jours avant le premier tour, la CPME sort du bois. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume.
Avec cette étude qui nous dit quoi? Que pour un patron sur trois, la priorité désormais c'est quoi? C'est l'ordre public, c'est la stabilité politique. On est très très loin de ce qu'était leur priorité avant l'annonce de la dissolution, Thomas.
Ouais, c'est très frappant, Guillaume, parce que depuis des mois, voire même des années, quand vous prenez toutes les enquêtes de conjoncture réalisées auprès des chefs d'entreprise, les sujets qui revenaient inlassablement en tête de liste, c'était les difficultés de recrutement et les difficultés de financement. Mais dans cette enquête que la CPME a publiée ce matin et réalisée après l'annonce de la dissolution, les préoccupations ont changé de façon spectaculaire. La stabilité politique est devenue une priorité pour 35% des chefs d'entreprise et le maintien de la paix civile, ce sont le mot que les patrons emploient eux-mêmes avant même qu'Emmanuel Macron parle de menace de guerre civile, le maintien de la paix civile est le sujet numéro 1 de 29% des sondés. Donc ces chiffres en disent long sur l'inquiétude des patrons, inquiétude d'un blocage de la vie politique, inquiétude de débordement qui toucherait leur entreprise. La baisse de l'activité économique est d'ailleurs la préoccupation numéro 1 de quasiment la moitié des petits patrons. Au-delà de leur activité, ces chefs d'entreprise se montrent aussi inquiets pour l'état du pays et de ses finances. 78% d'entre eux considère qu'une hausse excessive des dépenses conduirait la France à la faillite et à une mise sous tutelle du FMI. Et enfin, les petits patrons, on peut le dire, ont choisi leur camp. Ils jugent que le programme économique du nouveau Front populaire est le plus inquiétant, le plus menaçant. 58% d'entre eux reporteraient leur projet d'investissement ou de recrutement en cas de victoire de la gauche, contre 36% pour le Rassemblement national et 12% pour la majorité présidentielle.
Étude réalisée entre le 20 et le 24 juin, donc c'est vraiment la semaine dernière, effectivement. Mmh. C'est très intéressant. Voilà pour l'état d'esprit des patrons, on en reparlera bien sûr, notamment avec Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME, qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 18h35 sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci. Thomas. Et puis alors, c'était en France toujours, c'était attendu, c'est fait, en plein milieu de cette campagne, ça y est, le décret... portant sur la réforme de l'assurance chômage est paru aujourd'hui au journal officiel. Les syndicats dénoncent un déni de démocratie. Mais même beaucoup de petits patrons d'après la CPME n'y sont pas favorables non plus, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure avec le secrétaire général de l'organisation patronale. 18h04, dans l'actualité des entreprises. Et ben en pleine campagne, justement, c'est une opération qui n'est pas passée inaperçue qui a été annoncée ce matin. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'État rachète, alors en partie, l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel, qui était détenue par Nokia. On parle d'actifs hautement stratégiques, c'est un euphémisme, Mathieu.
Oui, exactement, il en rachète 80%, donc cette société, certes petite, hein, 1200 salariés, mais quand même 1 milliard de chiffre d'affaires, est donc nationalisée. Et pourquoi ? Parce qu'elle, effectivement, conçoit et pose surtout des câbles sous-marins entre la France et plus généralement l'Europe et les autres continents. Alors évidemment pour des clients des entreprises, on va dire classiques, et notamment les opérateurs télécoms, mais aussi pour l'armée, pour le ministère de la Défense, et qui en profite, en tout cas c'est ce qu'on nous dit en interne, puisque par définition ce n'est pas confirmé, mais en tout cas le ministère des Armées utilise notamment ces câbles pour capter des données, écouter des télécommunications, et donc cette activité est stratégique aujourd'hui encore plus depuis la guerre en Ukraine. C'est pas très nouveau, mais cela c'était devenu très sensible. Vous savez, c'est une ancienne filiale d'Alcatel, et quand Alcatel avait été vendu à Nokia en 2015, il y a près de 10 ans, à l'époque il y avait un ministre de l'économie qui s'appelait déjà Emmanuel Macron et qui avait voulu que cette société soit préservée. Alors il a essayé de la vendre à Orange, qui n'en a pas voulu, puis à Thales, qui n'en a pas voulu, BPI France non plus, bref, à la fin des fins, personne n'en a voulu, et donc c'est l'État qui non pas vole à son secours, parce que cette société est profitable, hein, elle réalise environ 3% de marge, mais remet la main dessus, car cette activité, encore une fois, est hautement sensible pour le ministère des Armées.
Mais sa vocation à rester dans le giron de l'État, ou en tout cas retourner vers un groupe, ça fait une question sans réponse, effectivement.
Ils ont passé 10 ans à ne pas réussir à adosser un industriel français, donc a priori ça va rester dans le giron d'État pendant de nombreuses années. Bon. La donne a changé avec la guerre en Ukraine, hein, véritablement.
Et ça arrive bien sûr à 3 jours du premier tour, donc on avait...
Oui, et 10 jours après que l'État a également racheté les activités dédiées à la défense d'Atos, donc il y a vraiment une reprise en main des activités liées au secteur de la défense.
Et bien voilà pour cette opération donc annoncée ce matin. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous. Des nouvelles de Casino, visiblement on s'est mis d'accord hier soir en interne sur les grandes lignes du plan social qui va concerner, alors on ne sait pas, entre 1300 et 3200 salariés. On s'est mis d'accord avant une nouvelle audience qui était prévue ce matin devant la cour d'appel de Paris. Et puis alors encore des soucis chez Boeing. Sauf que cette fois, c'est pas dans les airs, c'est carrément dans l'espace. Il y a 3 semaines, vous vous en souvenez, peut-être Boeing avait réussi à envoyer sa capsule Starliner vers l'ISS avec à bord 2 astronautes. La mission devait durer 8 jours, mais elle a été prolongée jusqu'à nouvel ordre, car Starliner apparemment à des soucis techniques, Jean-Baptiste Huette.
Coincés dans l'espace, Butch et Sunny, les 2 astronautes de la NASA, devaient rentrer hier après avoir passé une 20aine de jours dans la Station Spatiale Internationale. Raté, ce ne sera pas avant début juillet au plus tôt. Starliner, la capsule de Boeing, continue d'enchaîner les déboires techniques, fuite d'hélium, panne des propulseurs pendant la phase d'amarrage à la station spatiale. Boeing a tenté de rassurer, expliquant que les fuites d'hélium sont courantes et que 95% des missions vers l'ISS ont des problèmes de ce genre. La NASA indique toutefois que les conditions ne sont pas encore réunies pour ramener en sécurité les 2 astronautes. L'agence spatiale américaine souhaite mettre ce temps supplémentaire à profit pour étudier plus en détail la capsule afin de mieux comprendre comment les problèmes ont pu survenir. Ces nouvelles déconvenues ont valu à Boeing une salve de critiques. Le programme Starliner accuse déjà de nombreuses années de retard. Certains évoquent déjà le recours au chevalier blanc de l'espace, SpaceX, qui pourrait, si besoin, voler au secours des 2 astronautes avec sa capsule Crew Dragon.
Voilà, des soucis encore pour Boeing. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris, le CAC 40 ce soir, qui a terminé en baisse d'1%, 7530 points. Nous paraissent quoi les 8000 points ? Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume. Paraissent
quoi les 8000 points d'un seul coup là, à la bourse
de Paris ? C'était juste avant l'annonce d'Emmanuel Macron sur les législatives, donc il y a quasiment 3 semaines.
On verra ce qu'il en reste dans 10-15 jours, évidemment. Et à Wall Street, pendant ce temps, comment ça se passe ?
Bah écoutez, c'est du vert. Alors, c'est marrant parce que je regardais encore il y a un instant CNBC. Alors, il parle des stress tests aux États-Unis, il parle du S&P. Et puis, alors, vous avez la photo de Jordan Bardella, vous voyez.
Ah bon ?
Quand même, la première chaîne économique aux États-Unis. Ça passe avant le débat de ce soir entre Joe Biden et Trump. Hein. Donc, c'est quand même assez amusant de voir que la politique française continue de se diffuser. Et on l'a vu, on en parlait il y a une heure, hein, le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne continue de s'écarter. Ouais. Hein, 82 ouais. points de base sur des plus hauts de 3 semaines quasiment. Donc ça, c'est pas bon signe. Hein. Ça sera à surveiller demain et puis surtout lundi à l'issue du premier tour. Bon, du côté de Wall Street, ça se passe bien. Hein. Contrairement à Paris, c'est du vert sur les 3 indices américains. Toujours l'intelligence artificielle qui porte la cote d'un côté comme de l'autre. Hein. Micron perd 5%, mais de l'autre côté, vous avez Amazon qui a franchi hier soir pour la première fois la barre des 2000 milliards de valorisation boursière, parce qu'Amazon ne gagne pas d'argent ou quasiment pas sur le e-commerce, mais sur AWS, hein, les services de cloud qui forcément tournent à plein régime avec l'intelligence artificielle. Dans un mois, ça y est, on aura les résultats du premier semestre. Bon, les entreprises qui communiquent en ce moment sont quand même hyper prudentes. Hein. Vous avez Levi's qui perd 16%, hein, le consommateur qui fait des choix. Hein, en ce moment, il ne se rhabille pas. Donc, ils revoient à la baisse leur objectif. H&M, tout à l'heure, à Copenhague, perdait 10%. Et puis alors, vous avez également Walgreens. Vous savez, c'est une chaîne de pharmacie aux États-Unis qui perd quasiment 20%, avec là aussi un discours très prudent en disant le consommateur américain, il n'est pas vraiment là. Sa priorité, ce n'est pas d'acheter des produits pharmaceutiques. Donc, suite à cela, vous avez ce titre qui est en forte baisse sur des plus bas de quasiment 25 ans ce soir. Mais bon, c'est une toute petite valeur. Enfin bon, 10 milliards, donc à l'échelle de Wall Street, ça n'a pas d'impact sur les 3 indices américains.
Non, mais c'est révélateur d'un climat ambiant quand même, à quelques mois d'une élection présidentielle. Merci beaucoup Étienne. Étienne Brac avec nous sur BFM Business, 19h13. On vient avec Audrey dans un instant, puis nos experts. On a beaucoup de choses ce soir. La CPME qui s'engage dans le débat avec une étude qui est quand même lourde d'enseignements. On va revenir là-dessus. On remarquera qu'on parle de beaucoup de choses dans cette campagne électorale en France, mais qu'on ne parle pas d'emploi. On ne parle plus de lutte contre le chômage, qui est quand même assez intéressant. On parlera du débat Trump-Biden. Et puis Emmanuel Macron ce soir à Bruxelles. Qu'est-ce que ses homologues européens vont lui demander à 3 jours du premier tour des élections législatives? Ça en fait des questions. On est là jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, il est 19h17, on est revenu sur Good Evening Business en direct jusqu'à 20h, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à
Audrey
tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h et nos experts, ils sont là. Henri Sterdignac est avec nous. Bonsoir Henri.
Bonsoir Guillaume.
Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés, Cyril Lachèvre. Bonsoir Cyril, fondateur de l'agence de communication Silence. Nicolas Marquez est avec nous. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
Guillaume.
Directeur général de l'Institut Molinari. Beaucoup de choses encore à 3 jours du premier tour. Les petits patrons qui sortent du bois. Donc c'est la CPME qui a sondé, sondage qui est sorti ce matin, qui a sondé ses adhérents. Là, c'est tout récent, du 24 juin, et ce que nous dit l'étude est quand même assez frappant, Audrey.
Oui, puisque un patron sur 3 dit que pour lui, la priorité désormais, c'est l'ordre public, c'est-à-dire la stabilité politique. C'est ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. On l'écoute tout de suite et on en débat juste après.
Ça dénote clairement une inquiétude des chefs d'entreprise. Ce sont des questions qu'on pose régulièrement dans un baromètre de conjoncture, questions traditionnelles hein, sur l'inquiétude, est-ce que c'est le carnet de commandes, est-ce que c'est plutôt le financement, est-ce que c'est le prix de l'énergie, enfin toutes ces préoccupations habituelles des chefs d'entreprise. Et effectivement, cette fois-ci, on a rajouté 2 questions, l'une sur l'instabilité politique et l'autre sur ce qu'on a appelé le maintien de la paix civile. Les mots sont assez forts. Et effectivement, ce sont les préoccupations qui arrivent aujourd'hui en deuxième et en troisième position dans l'esprit des chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment une inquiétude extrêmement forte qui est finalement pas très étonnante parce qu'on est dans une situation d'incertitude à peu près totale sur ce qui va se passer. Et par contre, on sait qu'il y aura des conséquences économiques. Donc, du côté des chefs d'entreprise, il y a une incertitude et il y a une forme d'attentisme aussi.
Bon, c'est quand même assez unique, en effet, de voir la paix civile à l'agenda d'un sondage pour les patrons, Nicolas.
Oui, c'est assez unique. Mais on est dans une configuration assez unique. Donc,
oui.
Ça, c'est la grosse nouveauté. Et c'est vrai que le business, en général, il a besoin de calme. Les patrons demandent de la régularité fiscale, de la régularité réglementaire. Et là, on a un nouveau handicap. Il y a une inquiétude sur la paix civile. Alors après, il y a des choses très classiques dans ce sondage. Il y a notamment une question qui m'a intéressé, c'est la question sur le salaire minimum. Il y a un programme qui, celui de la gauche, qui vise à porter le salaire minimum à 1 600 euros net par mois. Donc,
Nicolas, on va parler des mesures. Vraiment, juste quand même une petite assise encore là-dessus. La paix civile, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est plus la baisse de taxes, c'est de savoir si je vais pouvoir continuer à bosser ou s'il va falloir que je me barricade, comme ce qu'on a connu du temps des gilets jaunes finalement.
C'est quand même une question aberrante, quoi. Je veux dire.
Oui, mais c'est le résultat de la polarisation.
Est-ce que dans 10 jours, je vais devoir barricader, mettre des planches et des clous, quoi. Voilà, c'est ça, les oui, patrons aujourd'hui.
C'est pas nouveau, hein. C'est un long processus. Les patrons, déjà, dans les périodes de. Les patrons, notamment des grandes villes, dans les périodes de grève, les grèves sur les retraites ou autres,
avaient cette autre, voilà, oui,
exprimé oui, cette crainte. Là, c'est un niveau puissance 3.
Et est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron ait utilisé il y a très peu de temps, quelques jours, les mots de guerre civile n'a pas mis de l'huile sur le feu?
Alors si vous m'autorisez juste un trait d'humour, Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de CPME, était dans sa voiture quand il vous a répondu, là, comme on le voyait, donc on espère qu'il n'était pas en train de
quitter la France. Non, c'est
pas qu'il conduisait. Il n'était pas en train de quitter la France, alors ça on ne sait pas.
Mais plus sérieusement, moi, de ce que je vois, de ce que j'entends autour de moi depuis 10 jours, c'est un arrêt total de toute commande, de tout financement, de toute opération. Alors, d'un point de vue macroéconomique, j'allais dire, c'est pas très grave, on va perdre un gros mois très important en juin, donc en gros on est parti pour perdre un trimestre, bon, on pourra s'en remettre dès le lendemain, mais enfin je veux dire, donc déjà
spontanément en juillet août, attention à cause des jeux, donc
oui, non, mais ce que je veux dire, bon, il y a cet aspect là mais qui mine de rien, quand on est un petit patron, est pas négligeable, donc entretient certains sentiments de peur. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit Audrey, quand on a un président de la République qui agite ce genre de menaces qui par ailleurs sont alimentées par les réseaux sociaux et par certains extrémistes de part et d'autre. Et on sait aussi, pour terminer, dans certaines entreprises qu'il y a un petit réveil de la CGT en ce moment depuis quelques jours, comme par hasard sur des négociations salariales, des menaces de grève générale. Donc il y a effectivement très concrètement des signaux vraiment inquiétants à cet égard.
Henri, qu'est-ce que ça vous inspire, avoir des patrons qui disent je ne sais pas, en fait, mon inquiétude c'est de savoir si je vais pouvoir bosser ou si dans 10 jours ça va être la croix et la bannière pour bosser dans mon entreprise.
D'abord, en tant que statisticien, je déteste qu'on change le texte des questions et qu'on rajoute deux items qui figuraient pas dans les périodes précédentes et qui naturellement ça biaise un peu.
Oui, on n'a pas de
ça biaise un peu. Ça biaise un peu le résultat. On voit avec plaisir que les patrons ne sont plus inquiets sur l'embauche, qu'ils sont plus inquiets sur le prix des matières premières et que du coup ces deux nouvelles items ont réussi à obtenir beaucoup de suffrages. Les patrons sont également inquiets, il faut le noter, en priorité sur la baisse d'activité. Bon, c'est quand même intéressant à noter. Alors bien sûr, si vous pensez que l'idéal c'est les affaires comme d'habitude, vous pouvez être inquiet. Si vous êtes à l'une ou l'autre extrémité du spectre économique, vous pouvez vous dire après tout, ça vaut le coup un ou deux mois de perturbation pour reprendre une bonne direction.
Ça dépend
pour
de la nature des perturbations.
Une bonne direction.
Henri, ça dépend de la nature des perturbations quand même. On ne sait pas ce qui risque de se passer malheureusement au soir du 7 juillet en France, en fonction du résultat de l'élection quand même. Donc, gardez un œil sur ce qui peut arriver.
Vous avez des.
Oui, bien sûr. Il y a une dramatisation qui.
Effectivement. Dramatisation, effectivement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, je sais que c'est vrai que dans certains endroits, on recommande de ne pas déposer ses poubelles le soir du second tour, etc. Etc. Non, mais quand on entend ce genre de choses, forcément, quand on est un petit patron avec un petit local, etc., ou même à pas de porte, on ne peut que s'inquiéter, c'est légitime.
Mais la raison pour laquelle c'est quand même important, justement, de regarder dans le détail les réponses à ce sondage, c'est que je rappelle que la CPME, c'est des millions de TPE et de PME françaises, que c'est 80% du tissu économique français, et que donc, enfin, c'est pas une opinion comme une autre. Et quand ils disent, ils sont quasiment 80% à craindre une mise sous tutelle de la part du FMI si jamais l'extrême gauche arrivait au pouvoir, ça donne quand même le sentiment d'extrême inquiétude.
C'est pas du fantasme, ça, Henri, attendez.
D'accord, mais c'est. C'est une question qui est orientée de manière à avoir effectivement la question. Les gens, a priori, ne se posaient pas la question. Est-ce qu'on a le FMI à la porte? À partir du moment où on leur dit « Est-ce que vous craignez pas que le FMI soit à notre porte ?» Effectivement, un grand nombre vont répondre « Oui ».
Bon, non, mais la question, elle n'était pas biaisée, Nicolas.
Il y a cette question que rappelait Audrey, et moi j'en ai vu une autre. Si le salaire minimum passe à 1600 euros net, qu'est-ce que vous faites?
Il y a
90% des patrons qui disent qu'ils vont reporter le coût sur les salariés ou les consommateurs. Il y a 14% qui disent on cesse notre activité.
Parce et 27%, pas... et 27% qui disent je licencie, je licencie une partie de mes salariés.
Genre, voilà. Et 50% qui disent j'espère récupérer ça sur mes consommateurs s'ils acceptent de payer plus.
Ouais.
Et il y a seulement 10% qui disent vous inquiétez pas, j'absorberai ça dans mes marges. Ça, c'est bien connu des économistes, c'est ce qu'on appelle l'incidence fiscale. Ouais. Quand on augmente la fiscalité ou quand on crée des réglementations, et ben, à la fin, il faut passer le coût à son voisin. Et donc, les patrons sont assez classiques. Il y a un truc qui m'a paru moins classique dans ce sondage de la CPME, c'est 70% des patrons ne sont pas opposés à une indexation des pensions sur l'inflation.
Oui.
Alors, l'indexation des pensions sur l'inflation, quand on est retraité, ça paraît tout à fait compréhensible. Mais quand on gère un régime de retraite, le régime de retraite, il a des comptes qui dépendent du ratio cotisant par retraité. Oui. Si vous avez moins de cotisants et plus de retraités, vous ne pouvez pas servir l'inflation et vous ne pouvez pas indexer votre pension sur l'inflation sans faire des déficits. Alors, il y a des endroits où c'est indexé, dans l'État, parce que l'État, il prend les déficits en termes de retraite, et dans le régime général, mais si vous êtes dans les régimes complémentaires, vous ne pouvez pas indexer si votre démographie n'est pas au rendez-vous. Donc là, j'étais surpris. Je me suis dit que les patrons, autant ils raisonnaient très bien sur l'incidence pour eux sur leur compte, autant en tant que gestionnaire de caisse de retraite, ils étaient plus caricaturaux. Et il y a un troisième truc.
Les patrons ont un certain âge, donc ils vont bientôt, un certain nombre vont bientôt prendre la retraite, et donc ils sont préoccupés du niveau de leur retraite, et que par ailleurs, peut-être que les patrons qui sont extrêmement subtils voient bien la différence entre le fait de réduire les retraites du fait d'une mauvaise indexation et le fait de structurellement avoir une évolution nécessaire du ratio entre retraite et pension.
Alors moi j'ai une lecture différente, je pense que les patrons ils connaissent leur compte de résultat et donc ils voient l'incidence de l'augmentation du SMIC parce que clairement, c'est un geste généreux mais qui en fait dans l'effet fait de la casse et quand ils regardent les régimes de retraite ils ne sont pas gestionnaires de régimes de retraite et ils ne comprennent pas que indexer c'est généreux, mais ça creuse les déficits.
Mais oui, c'est 1600 euros, c'est un raz-de-marée pour les entreprises.
Évidemment,
oui. Oui, et puis moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'il y a 58% des chefs d'entreprise qui reporteraient leur projet d'investissement si le Front Populaire arrivait, 36% pour le RN qui mène une campagne assez active et discrète. Alors, Jordan Bardella reçoit des personnes du RN dans un appartement discret.
Justement, c'est la question que je voulais poser, il reste deux minutes, c'est est-ce que vous avez le sentiment que sur le plan économique, auprès d'une partie, d'une frange du patronat, le RN a peut-être gagné le combat
Non, parce qu'il y a quand même 36% qui déféreraient leur projet d'investissement, alors qu'ils ne sont que 12 pour Macron. Donc,
mais le choix par défaut, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il est clair.
C'est pas, pour le coup, c'est pas surprenant non plus.
On est d'accord.
Mais ce que vous dites, ils ont fait un peu de chemin, comme ils ont labouré.
Du côté des artisans commerçants.
Le RN, ils ont une certaine position dans la hiérarchie sociale qui font qu'ils sont naturellement sensibles au discours du RN, en particulier le discours anti-étatiste. Pareil, en sens inverse, un certain nombre ont des travailleurs immigrés dans leurs entreprises et se disent « Mon Dieu, si j'ai plus de travailleurs immigrés, qui est-ce qui va me garder ma porte ?» ou « Qui est-ce qui va venir faire un certain nombre de travail de nettoyage ?» Donc ça également, ça peut jouer. Ce qui serait nécessaire, en particulier pour le nouveau Front Populaire, c'est de bien expliquer comment, quelles répercussions il entend de cette hausse du SMIC. C'est-à-dire dire clairement aux petits patrons, effectivement, on augmentera le SMIC, mais vous aurez le droit d'augmenter le prix de vos produits, en particulier les services à la personne, les services aux entreprises, les prix augmenteront.
Il y a ce sujet-là.
Il faut dire clairement, le SMIC... Ouais. Actuellement, c'est très peu dans des entreprises, dans les secteurs concurrencés. C'est beaucoup de femmes dont, effectivement, il ne serait pas scandaleux de revaloriser les salaires. Mais en contrepartie, naturellement, il va falloir que d'autres parties de la population acceptent des baisses de pouvoir d'achat.
Oui, et puis attention, parce qu'il faut aussi préciser que c'est forcément, de fait, un frein à l'embauche. Et qui va en pâtir le plus ? Les jeunes qui sont forcément les moins expérimentés.
Très vite,
Nicolas Marquez. C'est un sujet de débat avec Henri, mais on a un problème de vieillissement dans nos finances publiques. Donc tout le service à la personne, qui est en partie administrée ou financée par l'aide de l'État ou des crédits d'impôt, oui, il est paupérisé. Et si on était dans un pays avec plus de capitalisation collective ou de capitalisation...
Ah, alors là, attention, alors là, Henri va pas être d'accord.
Beaucoup moins de mal à financer le service à la personne. Vous allez en Suisse, le service à la personne c'est pas le sujet. Beaucoup mieux valorisé que chez nous.
Si le sujet, c'est qu'il faut revaloriser le service à la personne et qu'il faut payer.
Et on n'a pas l'argent pour revaloriser parce qu'on a vieilli. Nos finances publiques étaient adaptées dans les années 74 parce qu'on n'était pas encore à la fin du baby-boom. Et depuis, on a du mal. Vous allez en Suisse, vous allez au Danemark, les salaires de service sont beaucoup plus élevés parce que ces gens-là sont en ordre de marche avec le vieillissement.
Oui. Voilà, et ben ça c'est dit. Cyril, pour conclure.
Non, je voulais terminer juste sur le pourquoi est-ce que peut-être que le RN fait un peu moins peur. Oui. C'est aussi probablement, certainement d'ailleurs par pragmatisme, parce que les ouvriers votent très très majoritairement RN. Oui. Donc quelque part, moi je serais à la place d'un patron ayant une entreprise industrielle, petite entreprise industrielle, je me dirais que voilà, je serais un peu moins inquiet le lendemain parce que voilà.
Le RN propose des baisses de charges, baisses de cotisations sociales et non pas des hausses de salaire.
Oui, absolument.
Mais oui, mais à la fin, quand plus
on confirme la suppression de la CVAE.
À la fin, la baisse de charges, qu'elle soit patronale ou salariale, elle aboutit à augmenter les salaires nets. Donc il faut arrêter d'opposer. la cotisation sociale, elle est payée in fine par le salarié. Et vous le savez très bien.
Alors, on vous mettra pas d'accord là-dessus.
Mais certainement pas. Allez,
mais peut-être pas les petits patrons.
On va repartir dans un instant. Il est 19h30 sur BFM Business. Je vous redonne les grands titres de l'actualité. Donc, cette étude dont on parlait à l'instant, la CPME, ce chiffre, surtout dans cette étude parue ce matin, un patron sur trois fait de l'ordre public et de la stabilité politique ses priorités nationales. Même si on le disait, effectivement, ces choix ont été rajoutés dans l'étude de la CPME. On en parlait à l'instant. Dans l'actualité, à noter cette confirmation, c'était attendu, le décret portant sur la dernière réforme de l'assurance chômage est paru aujourd'hui au journal officiel. Les syndicats dénoncent ce soir un déni de démocratie en pleine campagne. Cette opération nationalisation qui n'est pas passée inaperçue, annoncée ce matin, l'État rachète en partie l'ancienne division de câbles sous-marins d'Alcatel, qui était détenue par Noctia. C'est un actif évidemment hautement stratégique. Et puis chez Casino, visiblement, on s'est mis d'accord hier soir en interne sur les grandes lignes du plan social qui va concerner, on ne sait pas vraiment, entre 1300 et 3200 personnes. On s'est mis d'accord avant une nouvelle audience prévue ce matin devant la cour d'appel de Paris. 19h32, on vient dans un instant, bien sûr.
Oui, on continue à parler de la campagne des législatives, et pas que. On va parler de ce sommet européen à Bruxelles, et puis, bien sûr, du premier débat qui va opposer Biden et Trump. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business. Les experts du soir sont avec nous. Cyril Lachèvre, Nicolas Marquès, Henri Sterdignac et bien sûr Guillaume Paul. Donc on a fait un constat, Guillaume, hier, notamment en lisant la presse. Donc on parle bien sûr de pouvoir d'achat, on parle d'énergie, on parle de dépenses sociales, on parle feuille de paye. Mais par contre, on ne parle pas emploi dans cette campagne.
Mais c'est vrai, quand on a vu ça, on s'est dit, ah bah oui, on parle de plein de choses. Alors merci à nos confrères des Échos. Tiens, on va le voir si vous nous regardez à la télévision, pour nous l'avoir rappelé hier dans un article, en page 2, qui fait remarquer, oui, effectivement, le pouvoir d'achat a tout écrasé dans cette campagne, mais sinon, c'est vrai qu'on ne parle plus de lutte contre le chômage. Même la majorité actuelle ne mentionne plus le retour en plein emploi à 5% en 2027. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de lutte contre le chômage alors que celui-ci est en train de remonter, finalement, Henri? Apparemment, les sondages disent que ce n'est plus la priorité des Français, mais enfin, quand même. Je veux dire,
D'abord, le... ensemble un programme contre le chômage, mais qui est la réforme des prestations chômage. Donc quand même, ils continuent à croire que en privant les chômeurs d'indemnités, on les forcera à prendre des milliers d'emplois disponibles.
Avec pas d'indemnité, Henri.
De prestations, on leur forcera à prendre.
Décret paru aujourd'hui, donc pardon.
Oui. Voilà, c'est paru aujourd'hui, mais c'est quand même la stratégie du gouvernement. Effectivement, la gauche, elle. Et rester fidèle à l'idée, on va faire une relance keynésienne, et puis le Rassemblement national est plutôt dans l'idée, ben, il n'y a pas de problème, on va faire de la préférence nationale. Donc quand même, il y a l'idée qu'il y a quand même un problème de chômage. Quand on regarde les chiffres, on a quand même 2,340 000 chômeurs au sens BIT, mais si on étend à l'ensemble du halo du chômage et aux personnes qui travaillent à mi-temps contraint, on reste quand même avec 5 millions de chômeurs, donc le problème existe encore.
Oui, et puis surtout avec des perspectives d'emploi, notamment industrielles, qui sont plutôt inquiétantes. Hein. Quand on regarde les chiffres, on a une hausse attendue du chômage qui pourrait atteindre 8,5%. Et pourtant, sujet complètement absent des débats du moment, Cyril.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ce qu'a dit Henri. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de chômage, parce qu'effectivement, il y a encore en latence un débat sur l'assurance chômage. Hein, donc effectivement, entre le Front Populaire et le Rassemblement National qui veulent supprimer le décret qui serait maintenu par Gabriel Attal s'il gagnait les élections. Mais de toute façon, depuis plusieurs années, on fait comme s'il n'y avait plus de problème de chômage. Et j'allais dire même, la faute, elle en vient presque des politiques en responsabilité, que ce soit déjà sous François Hollande et sous maintenant Emmanuel Macron. Moi j'étais très frappé à l'époque par la manière dont on occultait, je vais pas dire trafiquer les chiffres du chômage, parce que évidemment l'institut qui les publie est totalement fiable, donc c'est pas le problème. C'est la manière dont on jouait avec cette espèce de halo du chômage de jeunes en formation,
les
etc.
Donc,
les fameuses catégories A, B, C. Donc
enfin, on a une courbe qui s'est infléchie quand même.
Oui, évidemment. Ouais. Enfin, effectivement, avec plus de 5 millions de personnes sans emploi ou ayant la difficulté à en trouver ou qui ne travaillent pas assez à leur goût, on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de problème de chômage dans ce pays. Donc oui, c'est pour moi un grand mystère.
Tout le monde a l'air de considérer qu'on est au plein emploi, ça y est, là, 7,5% de chômage là, finalement. Parce qu'on était bercé dans l'idée que le chômage structurel en France était 7,5% et que descendre en plus bas, c'était...
Bah, oui, mais on n'est pas au plein emploi. Et,
non, on n'est pas au plein emploi.
Et en fait, le résultat du gouvernement...
Où est-ce que vous le situez, vous, le plein emploi, personnellement, Nicolas? Alors,
moi, ce que je vais vous
conseiller... Zéro chômeur, non,
c'est, c'est par rapport à nos voisins. Pour moi, le résultat du gouvernement, il est mitigé. Le chômage a bien baissé, mais pas assez. Je vous donne des chiffres, les chiffres européens. On a 7,3% de chômage en France versus 6% en Europe. Donc, on a 1,3% en plus par rapport à l'Europe. Ça représente 490 000 chômeurs en trop. Alors, quand Emmanuel Macron est arrivé en pouvoir en mai 2017, pour la première fois, on avait 410 000 chômeurs en trop. Donc, ça ne s'est pas amélioré par rapport à nos voisins européens. Ça s'est légèrement dégradé. Le même chiffre par rapport à la zone euro. Aujourd'hui, le chômage dans la zone euro, alors c'est le dernier chiffre d'avril, il est à 6,4%. Nous, on est à 7,3. On a 0,9 points en trop, soit 320 000 chômeurs en trop. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, en mai 2017, l'écart, il était trois fois moindre. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La zone euro a repris très significativement et a recréé de l'emploi. Nous, on n'en a pas recréé
donc
autant.
Perte de compétitivité française.
Perte de compétitivité française au sein de la zone euro. Et donc, pour moi, ça m'explique pourquoi le gouvernement ne fait pas cocorico. Parce que cette baisse, elle est très significative, mais elle n'est pas pleinement suffisante. Et alors, pour faire un peu de polémique avec Henri, pourquoi ce sujet n'est pas au cœur de la campagne? C'est peut-être qu'on est dans un pays où, en fait, il y a des chômeurs, et il y a un niveau d'indemnisation qui est correct. Et donc, ce n'est pas un sujet majeur de pouvoir d'achat. Et le sujet, il est plus politique. Est-ce qu'on fait statu quo sur les règles d'indemnisation de l'assurance chômage, ou est-ce qu'on fait comme le gouvernement une décrue des modalités d'indemnisation en espérant que ça poussera plus de monde vers le marché du travail?
Je veux bien vous entendre sur le fait que la majorité fanfaronne pas forcément sur le sujet, mais pourquoi est-ce que les oppositions justement ne s'emparent pas du sujet de manière plus...
Parce que c'est la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Je pense qu'ils font bien leur boulot en termes de sondage et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un sujet qui aura autant de prise que les autres sujets qu'ils développent.
Mais il faut dire que c'est quand même un succès. Bon, je vais jouer contre mon camp, c'est quand même un succès pour le gouvernement.
Oui.
On a quand même une baisse importante du nombre de chômeurs, et il y a eu miraculeusement un nombre extrêmement important d'emplois créés.
C'est pas
miraculeusement, Henri, c'est la politique de l'offre.
Parce que ça s'est fait avec une chute importante des gains de productivité. Et puis, il y a une partie de cet emploi supplémentaire qu'on a du mal à expliquer. Bon, voilà,
Vous ne voulez pas dire, Henri, que ce sont les résultats de la politique de l'offre?
C'est un peu les résultats de la politique de l'offre, mais en même temps, ça s'est fait avec... un développement des emplois précaires et puis des pertes de productivité du travail.
Cyril Lachèvre.
Moi, j'aurais un raisonnement peut-être un peu différent, un peu moins économique et plus politique ou de termes de communication. Effectivement, ce n'est pas un sujet d'inquiétude pour les Français et l'une des raisons...
Sauf quand il est à 10% le taux de chômage.
Oui, alors c'est qu'à mon avis, on raisonne un peu trop... Enfin là, nous, classiquement en stock, et il faudrait peut-être raisonner en flux. Je m'explique. Vous avez 40% seulement des Français qui estiment qu'il est difficile de trouver un emploi en cas de perte d'emploi. Ce chiffre, 40% aujourd'hui, il était de 68% en 93. Donc en gros, on se dit, si je suis au chômage, c'est pas très grave, parce que je peux retrouver,
oui, parce que le marché est dynamique,
entre guillemets, facilement.
Ouais.
Donc ça, je pense que ça joue psychologiquement quand même, pour que ce soit pas un gros sujet d'inquiétude dans les ménages, et donc sujet pour les hommes politiques. J'ajouterais qu'en même temps, le marché du travail, alors c'est encore quelque chose de diffus qui structurellement évolue beaucoup avec l'émergence des travailleurs indépendants.
Ouais.
Ça concerne pas encore des millions de personnes, enfin quand même petit à petit de plus en plus. Et donc on a ce petit sentiment que peut-être aussi qu'on peut s'en sortir, oui, même si on est un peu au chômage, mais on peut bricoler par-ci par-là. Voilà. C'est une tentative d'explication, en tout cas pour les, de mon point de vue, pour lesquels c'est pas un sujet politique. Après, ce que vient d'être dit, effectivement, ça reste un sujet économique majeur.
Ouais. Bon. Alors allez-y, Nicolas.
Alors j'ai un petit débat avec Henri. Pour moi, la baisse du chômage, c'est beaucoup la politique de l'offre.
Oui, oui.
Et il y a une mesure importante qui a été la baisse des impôts de production.
Bien sûr.
Ces impôts, ils tuaient l'emploi en France. Ils poussaient aux délocalisations et ils poussaient aux importations. Ma critique à l'égard du gouvernement, c'est qu'ils ont fait la moitié du chemin. Et on le voit bien dans les chiffres de chômage. Et je pense foncièrement que la meilleure protection contre l'emploi précaire, que fustigeait Henri, c'est le plein emploi. Là où vous avez du plein emploi, ben vous avez moins d'emplois précaires.
Le fait est qu'une grande partie de la hausse de l'emploi, c'est de l'apprentissage et c'est de l'emploi précaire.
Mais non,
et
c'est de l'entrée sur le marché du travail.
Et si. Et c'est ça qui fait que c'est pas glorieux. Hein, on se retrouve avec, depuis 5 ans, on a perdu deux points de productivité du travail. Et donc, c'est quand même, c'est problématique. On n'est pas, quand on regarde les chiffres, on n'est pas dans la start-up nation où grâce effectivement à une politique de soutien à l'innovation, on fait des gains fabuleux de productivité du travail. C'est pas la situation, donc c'est pas forcément glorieux. Ce qui a joué aussi, c'est le fait qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite et que du coup, beaucoup d'entreprises ont conservé des travailleurs seniors.
On va peut-être qu'ils le voulaient pas. Oui, mais moi je lis différemment les deux choses. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est bon pour l'intégration sur le marché du travail. On a en France un taux d'adéquation de la formation à l'emploi qui était très mauvais historiquement. L'apprentissage permet de corriger ça, parce que c'est bien de former.
Bien sûr,
mais il faut que ça serve. Effectivement, sur l'autre côté, pour les plus seniors, une partie de l'augmentation du taux d'emploi, c'est que les seniors travaillent plus longtemps. Mais on est condamné à faire ça. On vit de plus en plus longtemps dans un pays qui n'a pas préfinancé ses retraites.
Ouais. Non, mais le point qu'il faut voir, l'apprentissage, c'est tout à fait génial. Le problème, c'est que l'apprentissage tel qu'il s'est développé en France a profité à des bacs plus 4 et au développement de l'enseignement privé financé comme ça. Ce qui est pas forcément génial. C'est pas l'apprentissage industriel à l'allemande que nous aurions souhaité.
Bon allez, on avance. On parle maintenant de ce sommet qui se tient à partir de ce soir à Bruxelles. Oui. On va régler la question des top jobs en entérinant le choix d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, ça a été annoncé. Mais on imagine aussi qu'Emmanuel Macron est très attendu.
C'est évidemment la question qu'on se pose. Qu'est-ce que vont lui demander tous ces partenaires européens qui vont lui tomber dessus, qui vont lui demander de commenter? Est-ce qu'il veut faire après les législatives? Est-ce que veut faire un tel ou un tel du côté du Rassemblement National au niveau Front Populaire? Vous imaginez là
qui vient la prochaine fois?
Qu'est-ce qui t'a pris la prochaine fois? Non, je dis ça parce que on a vu détaillant tous les programmes depuis maintenant une dizaine de jours, il y a tellement de points de friction potentiels demain avec Bruxelles que ça peut vite être intenable, cette histoire.
Totalement.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, plusieurs éléments de réponse. Ce qui est intéressant, juste avant de parler des dirigeants, de regarder la presse internationale, la presse européenne. Alors,
au sujet
sans
de,
surprise,
de la
évidemment, les Allemands sont très très critiques contre Emmanuel Macron, mais puis de toute façon, ils nous attendaient dans tous les cas de figure, même avant la dissolution au coin de la rue. Mais c'est ceux qui sont très très sévères à l'égard de Macron, c'est la presse portugaise. Et ça m'a interpellé. Et j'y vois en fait, vous savez que c'est Antonio Costa, l'ancien Premier ministre, qui est pressenti pour devenir président du Conseil. Donc il y a un regain d'intérêt sur les questions européennes au Portugal et il y a des titres de journaux très durs sur Emmanuel Macron, le sorcier, enfin le sort s'est retourné contre le sorcier, etc. Enfin bon, donc ça c'est plus pour l'anecdote. Mais En fin de compte, les dirigeants européens, ils se demandent deux choses. Est-ce qu'en France, ils vont avoir un Mario Draghi ou une Giorgia Meloni, c'est-à-dire en gros un gouvernement techno à la Draghi parce que pas de majorité et sur lequel finalement ils auront beaucoup de pouvoir puisque ce sera facile pour ce gouvernement qui n'aura aucun pouvoir en interne de dire je me mets dans les pas de Bruxelles et c'est Bruxelles qui dirige ou une Meloni soft ou hard, en gros la présidente du Conseil italien qui a pris un discours très dur électoralement et largement
rentré dans le rang.
Dans les deux cas, Draghi ou Meloni, le bilan économique italien et le rapprochement avec l'Europe sont plutôt positifs.
Oui, j'ai toujours été très frappé par à quel point les dirigeants extrêmes rentraient dans le rang très vite.
Parce qu'il y a des garde-fous.
Enfin, je veux dire, Tsitsipas, ça a duré deux mois en Grèce.
Parce qu'il y a le FMI,
Berlusconi, je me rappelle très bien du G20 que je couvrais comme journaliste à Cannes. Berlusconi s'est fait scotcher par Merkel et Sarkozy dans un coin et le FMI en embuscade. Il a tout arrêté tout de suite. Enfin voilà. Donc quelque part, je pense que de toute façon, ils ont bypassé Macron maintenant qui n'est plus pour un sujet. Mmh. Le sujet, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir maîtriser la France et le front assez bien.
Mais alors du coup, Nicolas, est-ce qu'il y a une perte d'influence de la France sur la scène européenne?
Oui, je crois qu'elle est ancienne. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'envoyer à Bruxelles des gens qui perçoivent ça comme une punition. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs en création de coalition. Regardez Emmanuel Macron. Et son deuxième mandat, il s'est fait élire sans faire campagne et il a zappé l'étape clé qui était de faire une coalition parce que tous les sondages montraient que ça allait être très difficile législative. Ce qu'on n'a pas fait à Paris, on ne sait pas le faire à Bruxelles. On s'est beaucoup positionné en moralisateur. À toute une série d'époques quand l'extrême droite était élue donc je suis d'accord avec Cyril, la question c'est est-ce qu'on aura Meloni soft ou hard ou une forme de Draghi. Soit dit en passant, le bilan économique de Draghi n'est pas toujours parfait, hein.
C'est vrai.
Ça ressemble étrangement au bilan économique qu'on connaît aujourd'hui en France.
Henri Sterdignac, Meloni ou Draghi, ça va être quoi demain?
Bon, la perte d'influence de la France va être évidente. C'est quand même un peu tragique que sur nos députés européens, il y en a 44 qui sont dans des formations sans influence, et donc il n'y en a que 37
ça, c'est dingue.
Qui sont effectivement susceptibles d'avoir une influence. C'est quand même grave. Ensuite, on a le problème que au Conseil de l'Union européenne, c'est les ministres désignés par Bardella, s'il devient Premier ministre, qui siège. Et on ne sait pas au Conseil européen qui vient. Est-ce que c'est Bardella ou est-ce que c'est Macron?
Mais Henri, est-ce que c'est un manque de vision stratégique? Parce que j'illustre ce que vous êtes en train de dire. Le groupe politique d'extrême droite de Meloni a dépassé en nombre de sièges Renew, donc le groupe dans lequel
siège la majorité d'Emmanuel Macron.
Donc, est-ce que c'est un manque de vision stratégique de la part de la France?
Oui, c'est un manque de vision stratégique de la part de la France. Et d'autre part, on a Bardella qui a des positions tout à fait opposées à l'évolution actuelle de l'Europe, c'est-à-dire qu'il est pour une Europe des nations, il propose un référendum pour faire mettre dans la Constitution que les lois françaises sont supérieures aux règlements européens, ce qui serait totalement épouvantable. Donc il va falloir 2-3 mois pour que ça se calme.
Enfin, on a deux discours, parce qu'on a l'Élysée qui dit que la nomination du prochain commissaire français, ça sera le choix du chef de l'État, et Jordan Bardella, lui, de son côté, dit que ça sera l'affaire du Premier ministre.
J'ai entendu il y a une demi-heure que Macron avait nommé Breton.
Encore,
on verra.
Ah oui.
Encore. Eh oui,
donc il est fort possible que Macron ait profité à la dernière minute.
On verra.
Pour renommer Breton. Ce qui limiterait.
Deux minutes à peine pour dire si vous allez regarder le débat Trump-Biden la nuit prochaine ou éventuellement. Est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous allez regarder quelque chose en particulier outre l'état de santé de ces messieurs ou pas? Je sais pas. Quelques secondes chacun, Cyril.
Quelque chose qui m'a marqué, qui se voit pas vraiment de notre côté, mais c'est que Trump est. plutôt assez discret là dans la campagne, oui. Fait moins de sorties. Je pense qu'il est pas mal entouré. Enfin, il se dit qu'il est pas mal entouré maintenant et bien encadré en termes de com.
Donc, mieux qu'avant, vous voulez dire.
Ouais, ouais. Donc, faut peut-être pas non plus s'attendre à des sorties terribles de sa part. Côté marché financier et analyste, si je puis dire, pense que de toute façon, personne ne remettra, et surtout pas Trump, en cause la loi américaine de Joe Biden. En tout cas, les 80 milliards déjà dépensés pour la transition énergétique, ça donne des effets positifs sur l'économie. Donc là-dessus, c'est pas un sujet. C'est la géopolitique. Donc ça, c'est ça qui pourrait inquiéter. Et puis moi, je trouve qu'il y a un débat très intéressant aux États-Unis sur l'immobilier, qui est une vraie préoccupation des Américains. Je le dis parce que c'est aussi pour moi un sujet majeur en Europe, dont on n'a pas du tout parlé pendant la campagne. Et là, les positions sont très divergentes et très intéressantes.
On verra. Je ne sais pas si parlons immobilier des malheureusement, c'est un vrai sujet. 30 secondes chacun, Nicolas, Henri, 30 secondes.
Moi, je trouve que c'est, je vais dire, des banalités, mais c'est quand même tragique que le plus grand pays du monde soit comme ça, entre les mains de deux personnes vieillissantes et...
Un peu sénile,
c'est
vrai. Voilà,
et que Biden a un très très bon bilan sur le plan économique. Qu'il a fait ce qu'il fallait.
Contrairement à ce que dit Trump.
La relance, oui, d'accord.
Ouais, mais,
dire, ça devrait être un modèle pour les pays européens. Et que donc il faut espérer qu'ils s'en sortent.
Un mot, Nicolas, très vite.
Un mot de bon français. En fait, ce débat, c'est un président contre un ancien président. C'est la première fois que ça se fait aux États-Unis. En France, pas mal de monde en a rêvé. Giscard, jusqu'en 94, il croyait encore qu'il allait pouvoir revenir. Sarkozy, Hollande, on en rêvait ou on rêve. Et on a beaucoup parlé de la des législatives. Ouais. Moi, je me demande si Emmanuel Macron est pas en train de se dire si j'ai pas ce que je veux, je démissionne. Comme ça, je me représente plutôt.
Ah non, mais ça c'est inconstitutionnel.
Ah non.
Ah bah si.
Se représenter plus tard, c'est
non,
faisable.
Non, parce qu'un mandat commencé est un mandat compté.
Dans 6 ans. Oui, plus tard.
Ah, d'accord.
Si le mandat s'arrête, votre plus tard, il arrive plus tôt.
C'est vrai. Giscard, il a cru jusqu'en 94. Comme quoi, vous voyez, tous les espoirs sont permis. Allez, l'extra time, on est en retard. 30 secondes. Bah, Nicolas, puisque vous étiez parti, voulez-vous...
Mon coup de gueule, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Ça fait 20 ans qu'il nous fait un rapport tous les ans et ça fait 20 ans qu'il est faux. Alors, le Conseil d'orientation des retraites a dit que les retraites étaient excédentaires de 0,1% du PIB. Mais il faut regarder la méthode de calcul. Quand le Conseil d'orientation des retraites regarde l'État, il dit l'État est à l'équilibre. L'État équilibre toute une série de caisses de retraite, le régime de fonctionnaires, la RATP, la SNCF. Donc, tous ces déficits compte pas pour le corps. Alors, on a refait la petite addition. Et le Conseil d'orientation des retraites oublie 2 points de PIB de déficit. Ça vous explique la moitié des déficits publics.
Ils avaient soi-disant changé de patron pour.
Voilà, c'est ça, exactement.
En fait, le mode de calcul serait bon au Danemark, parce que là, on équilibre les comptes publics, ou en Suisse, ou en Islande, mais pas en France. Bon. On est en déficit depuis 1975.
Ok, d'accord, très bien. Voilà pour le
coup. Bon, Henri Sterdyniak, après, d'accord.
Henri, on n'a pas le temps, malheureusement.
On n'a pas le temps.
Henri,
allez-y. Eh bien, je vais faire un coup de cœur à mes collègues économistes, 300 économistes qui soutiennent le programme du Front Populaire, c'est tout à fait sympathique. Il y a 99 économistes qui soutiennent le programme de Macron, c'est tout à fait sympathique parce que ça permet le débat public. Et heureusement, parmi mes collègues, il y en a zéro qui soutiennent le programme du Rassemblement National, un programme raciste dans lequel il serait question de baisser le taux de TVA et de faire financer ça par les prestations des familles d'immigrés en France.
Voilà pour le coup de gueule d'Henri ce soir. Non, c'est un coup de cœur, qu'est-ce que je dis ? C'est plutôt un coup de cœur, en l'occurrence. Cyril, pour terminer, 30 secondes.
Moi, j'ai cherché désespérément un coup de cœur dans le climat actuel. J'ai failli vous parler des bonnes affaires à faire dans les primeurs bordelais ou de l'excellent cru de rosé. J'ai lu des articles intéressants à ce sujet récemment. Donc, avant les vacances, c'est pas mal de savoir que le rosé va pas être mauvais cette année. Finalement, très classiquement, ce petit chiffre publié par le site TEPA qui dit que les émissions de CO2 de la France ont baissé de 5,3% au premier trimestre de cette année, après 5,8% l'année dernière, grâce à l'hydraulique nucléaire notamment. Bon, bah, on n'est pas si mauvais que ça dans ce domaine-là.
Donc. Ah, bah, attendez.
Au moins,
légère
bonne nouvelle,
par ailleurs,
avec des émissions de CO2 qui augmentent dans le monde à cause de beaucoup de forêts.
On mesure ça tous les trimestres maintenant, alors.
Voilà, on termine sur un cocorico quand même.
L'époque est ainsi faite. Merci messieurs, Nicolas Marquez, Cyril Lachèvre, Henri Sterdyniak. Merci, à très vite, avec plaisir. 19h55, c'est fini pour ce soir.
Oui, c'est terminé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est passé trop vite, évidemment, comme tous les soirs. Ceci dit, le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouve demain aux manettes.
On sera là demain. On verra ce que seront
dit messieurs de Trump et Biden cette nuit. On racontera tout ça à 18h. Rendez-vous pour de nouvelles aventures. Frédéric Simotel, Tech & Co, dans un instant. Et nous, on se retrouve demain. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.